Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes contents pour l'instant de ces rencontres de Cluny? Est-ce que c'était votre première fois? Qui est venu pour la première fois? Ah oui, quand même une majorité. Eh bien, je suis ravi que pour l'instant ça vous ait plu. On va essayer de rater les suivantes hein, pour que ça équilibre un peu. Alors moi, je suis Samuel Sauvage et je suis content parce qu'en plus, j'ai grandi à Cluny, mais mon parcours m'a fait rejoindre ces chemins de l'écologie. Et donc maintenant, j'habite Paris et je suis cofondateur de l'association Hop. Ah, peut-être que Gérald voulait dire un petit mot pour nous chauffer ou... Non,
je sais pas, c'est déjà un peu tard, non, ça va. Vous êtes bien, vous êtes chaud?
Ouais.
La révolution est en marche.
Il y a un monsieur qui est pas très chaud, je trouve là. Non.
C'est ton copain, tu veux que je chauffe?
Ouais.
Non, ça va aller. Je vous rappelle les fondamentaux. La qualité du moment dépend aussi de votre qualité à vous. Et la posture, l'ouverture, l'accueil, les lampes, la réactivité, tout bien, les fondamentaux, quoi. Allez. Merci. Et ça vaut pour vous aussi, hein. Vous avez la responsabilité qu'il se passe un vrai truc, quoi. La révolution doit être en marche à la fin, là, hein. Ok.
Ah, mais la tête était plus. Oui, en plus.
Comme on avait un peu froid, je ferme. Alors, on va vivre un moment, en effet, parce que voilà, on est sur cette terre pour apprendre des choses là, et notamment confronter deux sujets qui ne sont pas traités par ailleurs. Enfin, c'est aussi le but de faire un programme avec des sujets un petit peu complémentaires les uns par rapport aux autres, notamment éducation, même si c'était un thème qui est revenu, notamment lors d'une table ronde sur comment est-ce qu'on gagne une bataille culturelle, et puis tout ce monde des objets. Ce monde de matériel qu'on ignore souvent. D'ailleurs, on est sur les rencontres des pensées d'écologie. On pourrait penser qu'on n'est que dans l'intellect, mais penser, c'est aussi d'une certaine manière agir. Enfin, on va continuer à en parler. Et au sein de l'association HOP que je représente, donc Halte à l'obsolescence programmée, on se bat contre la faible durée de vie des objets, leur faible réparabilité. Donc, comment est-ce qu'on sensibilise? Comment est-ce qu'on change la loi française, européenne, pour garantir plus longtemps les produits, pour que les consommateurs soient informés, pour qu'on soit incité à réparer? Et donc, on constate qu'il y a cette déconnexion. On est sur une civilisation qui se déconnecte, qui rachète au lieu de savoir entretenir. Il n'y a plus cette notion de maintenance qui est souvent dévalorisée dans les objets. On a en même temps une faible réparation. On estime que autour de, par exemple, sur l'électroménager, 40% des appareils qui se retrouvent en décharge pourraient très facilement être réparés en quelques gestes. Et le problème, évidemment, il est social, parce que c'est des dépenses qui sont ajoutées pour des personnes et du temps qui est passé à racheter, etc. C'est aussi un problème économique, puisqu'on va racheter des produits de l'autre bout du monde, alors qu'on pourrait aussi faire des emplois ici autour de la réparation, par exemple. Et puis, c'est un problème environnemental. Souvent, on ignore que autour de 80% de l'impact d'un objet, c'est sa fabrication. Et donc, le geste écologique, c'est de faire durer un objet, c'est de le réparer, c'est de le maintenir. Et donc, ce n'est pas d'essayer, par exemple, votre ordinateur, de bien l'éteindre quand vous arrêtez de l'utiliser ou de le mettre en veille. Ça, c'est peanuts par rapport au fait que vous allez réussir à le faire durer un an, deux ans, trois ans de plus. Donc, comment est-ce qu'on se reconnecte à ces objets, qu'on se les réapproprie, parce qu'on ne les comprend plus, dès le plus jeune âge? On va avoir cette table ronde, et je vais m'asseoir parce qu'après, ça va être long, sinon. On a une table ronde avec trois intervenants très complémentaires. Donc, en commençant ici par Martine Dumas, qui est fondatrice et présidente du Repair Café du Mâconnais. Donc là, on a une personne qui agit concrètement pour la réparation. Et s'il y a des Mâconnais dans la salle, petit peu. Voilà, bah, en tout cas, il ne faut pas rater les Ripper Café, tous les événements qu'ils organisent. On a Marie Durubella, qui est professeure de sociologie à Sciences Po Paris, spécialiste de l'éducation, des inégalités, donc qui pourra nous parler de ses travaux. Donc c'est plus une spécialiste de l'éducation et donc qui va réfléchir avec nous sur comment elle pourrait évoluer. Et Rodrigo Arenas, qui représente plutôt une parole politique, puisque Rodrigo est député, mais aussi ancien président de la FCPE. Et donc, il connaît aussi ce monde de l'éducation et comment est-ce que l'école doit évoluer. Est-ce qu'on peut, politiquement, avoir des propositions, notamment législatives, à l'Assemblée, pour faire évoluer cette école? L'avantage de l'école, c'est qu'on est tous, on a déjà tous été élèves ou parents, et donc tout le monde a un avis un petit peu sur la question. D'où l'importance de voir comment est-ce qu'on peut en faire un instrument pour refonder un contrat social où les objets ont leur place. Et on peut commencer peut-être par un premier panorama de l'école aujourd'hui. L'école aujourd'hui, elle est loin des objets. On a souvent une sorte de mépris plus ou moins visible vers le matériel. Et peut-être que ça se retrouve après dans les constats que j'ai tressés de tous ces objets qui ne durent pas parce qu'on n'a pas acculturé. Et donc, Marie, la première question que je voudrais poser, c'est comment va l'école dans tes travaux? Comment va l'école aujourd'hui? Est-ce qu'elle joue son rôle? Est-ce qu'elle est efficace? Mais en effet, c'est en 10 minutes, donc il faut forcément choisir quelques sujets qui te semblent importants de partager pour commencer cette table ronde.
En 10 minutes, on reviendra sur tout ça, je pense, avec des questions. Ce qu'on peut dire, c'est que l'école, on y croit. Dans notre pays, on a la conviction que ce qu'on peut offrir de mieux à notre jeunesse, c'est de rester à l'école le plus longtemps possible. C'est vraiment une conviction qui est bien ancrée et qui s'est traduite depuis plus de 50 ans par une politique d'expansion tout à fait impressionnante. Alors peut-être on ne réalise pas à quel point, il faut citer quelques chiffres pour en prendre la mesure, mais par exemple depuis 1950, c'est quand même pas si vieux 1950, le taux d'accès au bac, il a été multiplié par 15. Hein, donc c'est quand même extrêmement important. Et même sur la période récente, depuis 2000, le nombre d'étudiants a été multiplié par 2. Voilà, depuis 2000. Donc on est dans une période de très forte expansion, mais elle prend la forme de plus de la même chose. Hein, c'est-à-dire qu'on invite, on fait passer plus d'un niveau à l'autre et on invite les jeunes à aller toujours plus loin dans des études qui sont souvent et majoritairement générales. Donc, les jeunes restent plus longtemps à l'école et on a tendance à penser que c'est bien circuler, il n'y a rien à voir, on va continuer. Bon. Alors, ces cursus inégaux, il y en a qui vont aller loin, d'autres moins loin, il faut bien voir sur quoi ils se fondent. Ils se fondent sur la réussite, il faut réussir raisonnablement pour aller plus loin. Et cette réussite, elle se fonde sur un mérite scolaire. Hein, on va évaluer les élèves, on va les sélectionner sur la base de savoirs qui ont été longuement dénoncés. On sait qu'ils ont une part d'arbitraire importante, qu'ils sont biaisés socialement, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils vont avantager certains enfants. Mais ces savoirs sont aussi abstraits, hein, les capacités d'abstraction. Il n'y a qu'à voir aussi les disciplines scolaires qui sont le plus valorisées dans notre système, c'est les disciplines abstraites. Et un élève qui réussit dans les disciplines abstraites, on dira qu'il est intelligent. On n'ose plus trop dire qu'il est doué, parce que c'est un peu tabou aujourd'hui, mais la notion d'intelligence est encore très présente dans les jugements des enseignants. Et il faut bien savoir qu'elle est très présente en France. Quand on interroge, par exemple, des ouvriers américains, on leur dit « Mais pourquoi vous êtes ouvrier ?» Ils vont dire « Bah, j'ai pas eu de chance dans la vie. » Quand on interroge des ouvriers français, ils vont dire « C'est parce que je ne suis pas intelligent. » Donc c'est ça que l'école apprend aussi aux gens. L'école sélectionne les gens selon leur intelligence, leur capacité d'abstraction, et s'ils sont intelligents, mais ils iront loin. Alors, dans les orientations, c'est la même chose. Selon leur niveau scolaire, on va les orienter, ou ils vont être invités, comme on dit, ou incités à s'orienter. Et quand ils ne sont pas bons, ils iront faire des formations manuelles ou technologiques. C'est toujours par défaut qu'on s'oriente vers ces formations non académiques, disons. On voit aussi, si on analyse ce qu'on fait dans les classes, les contenus de formation, les exercices, les programmes, que la tendance, malgré peut-être l'idée qu'on en a, c'est que les contenus sont de plus en plus abstraits. Il y a des gens qui ont analysé les exercices en mathématiques ou les exercices en français. Si vous avez suivi les exercices qu'on fait faire maintenant en français à vos enfants, vous avez vu avec l'influence de la linguistique, c'est de plus en plus abstrait. En technologie aussi, c'est de plus en plus abstrait. Mon temps, on fabriquait un tabouret, maintenant ils font du code. Hein, donc il y a une tendance générale aussi vers de plus en plus d'abstraction. Alors, il y a aussi un autre phénomène qui est encouragé par tout le monde, les parents, les élèves, etc. C'est qu'on trouve normal que ça soit sur la base de leur niveau scolaire, de leur diplôme, qu'ils accèdent à des professions qui restent très inégalement enviables. Hein, il y a des professions qui ont des statuts bien supérieurs à d'autres, on ne voudrait pas pour ses propres enfants. Et c'est sur la base du diplôme. C'est-à-dire que la formation est détournée d'une certaine manière, dans un sens utilitaire, hein, c'est fait pour se placer. Et ça entraîne une course en avant. Justement, cette expansion scolaire dont je parlais en commençant, hein, c'est une course au diplôme de plus en plus élevé, de plus en plus abstrait, quitte à ce qu'on se rende compte à 25 ans, quand on sort de grandes écoles prestigieuses, que finalement, hein, c'est peut-être pas ça qu'on voulait faire, que le travail qu'on fait n'a pas forcément un sens complètement excitant. Hein, ces jeunes qui ont ramé pendant toutes leurs études pour faire des grandes écoles de commerce exigeantes sur le plan intellectuel, relativement abstraites, et qui se retrouvent à remplir des tableaux Excel pour savoir quelle entreprise doit être délocalisée, qu'est-ce qu'on doit fusionner, etc. Et ben, ils en ont marre et ça crée une crise du travail chez les jeunes qui a sans doute un rapport avec ce mode de fonctionnement. Donc voilà ce qu'on peut dire globalement, je ne veux pas aller plus loin, on pourra répondre à des questions, mais l'école elle va bien quantitativement, ça il n'y a pas de problème, voilà.
Peut-être un mot sur les inégalités qui en résultent malgré
tout. Oui, je veux dire, j'avais prévu de le dire, mais j'ai tellement le souci de ne pas dépasser mon temps que je l'ai oublié. Donc la course en avant, elle va repousser les inégalités plus loin. Parce que les inégalités de réussite, on les voit dès les petites classes. Hein, dès les petites classes, il y a des enfants qui ont du mal à apprendre à lire, hein, d'autres pour qui ça ne pose pas de problème. Et ces inégalités de réussite, il y en a parmi vous qui ont été enseignants, vous le savez bien, elles sont cumulatives. Hein, quelqu'un qui rentre à un niveau de scolaire donné déjà un peu faible, il va moins en profiter. Et les difficultés vont s'accentuer avec le temps. Donc les inégalités, elles existent dès les petites classes et elles vont se propager par la suite. Et elles vont être... Si on pousse tout le monde à faire plus d'études, tout le monde va aller. On peut regarder les taux d'accès des enfants d'ouvriers au bac, ils s'élèvent de plus en plus, effectivement. Mais les autres, ils vont encore plus loin. Hein, c'est-à-dire que tout le monde est dans cette course au diplôme le plus élevé et les inégalités se manifestent plus tardivement. Alors on dira, ah ben c'est bien, parce qu'ils sont quand même restés plus longtemps à l'école. Mais dans l'école telle qu'elle est, hein, ils savent bien, en plus, les derniers de la classe, que même s'ils vont jusqu'à un bac, ce n'est pas le bac le plus valorisé, ce n'est pas celui qui leur permettra d'accéder aux filières les plus valorisées, etc. Donc, ils le savent. Hein. On parle toujours des bienfaits d'éducation en pensant aux premiers de la classe. Ouais, ils apprennent plein de trucs, c'est bien, etc. Mais il y a les derniers, et les derniers qui sont toujours derniers dans leur classe et qui se disent qu'ils sont moins intelligents, qu'ils sont moins bons, hein, et puis ils restent quand même dans le système. Hein. Donc, il y a certains chercheurs qui disent même que ouvrir le système, hein, développer l'expansion scolaire comme ça, sans fin, hein, c'est une façon de conforter ces inégalités. Parce que pour aller plus loin, encore plus loin, encore plus loin, ben, il faut des moyens, il faut de la confiance en soi, hein, il faudra des réseaux après pour se placer dans certains postes très enviés, etc. Donc, ça déplace les inégalités, mais l'expansion, c'est d'une certaine manière une contre-réforme. Tout le monde est content, finalement. On peut avoir l'impression que tout le monde en profite. Tout le monde va plus loin, c'est bien. Mais il y en a qui vont encore plus loin. Donc, ce n'est pas une solution, hein, pour résoudre les inégalités dans l'école telle qu'elle est. Donc, c'est plus une réflexion sur les contenus, sur justement ce fameux mérite scolaire, sur quelle base on sélectionne les élèves, qu'il faut réfléchir. C'est pour ça que cette table ronde est importante. Voilà.
Donc, on a une fuite en avant, une course à l'échalote dans cette expansion scolaire, avec des savoirs de plus en plus biaisés, abstraits, et qui a des impacts, en effet, sur des inégalités qui se manifestent plus tardivement. Est-ce que Rodrigo Arenas, en tant que député, est-ce que tu partages ces premiers constats sur l'école? Pour toi, quelles sont les faiblesses de l'école aujourd'hui, telles que tu la vois? Et est-ce que, selon toi, l'école peut éduquer autant aux pratiques qu'à l'intellectuel?
En fait, est-ce qu'elle peut d'abord éduquer aux pratiques intellectuelles et manuelles? La réponse est oui. C'est ce qu'elle fait d'ailleurs dans les petites classes. On a, dans ce que tu disais, Marie, il y a la notion de maîtriser l'écriture, par exemple. Le lire, écrire, compter, qui est l'instruction, la base de l'instruction. Je précise quand même que dans les années 30, on est passé du ministère de l'Instruction nationale au ministère de l'Éducation nationale. Je pense qu'on est dans le camp de l'éducation ici, on laissera l'instruction à Retailleau et tous ces gens-là qui regardent une autre école. Alors, c'est vrai qu'on se marre parce qu'on se dit, mais c'est lunaire, mais c'est le sujet aujourd'hui. Là, je lisais un article dans Mediapart tout à l'heure. Moi, comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis un ancien dirigeant associatif d'une fédération de parents d'élèves, là, classé à gauche. Il y a un article dans Mediapart qui explique comment est-ce qu'aujourd'hui l'extrême droite, soit Reconquête ou l'ERN, est en train de pénétrer les fédérations de parents, alors même que les chartes éducatives, les projets pédagogiques excluent de fait ces parents-là. Mais donc, on a un vrai sujet, en fait. On a un vrai sujet, comment est-ce que les outils qu'on a développés au fil du temps, depuis des dizaines d'années, sont en train de devenir une prédation. Parce que oui, quand on veut prendre le pouvoir, qu'on soit d'extrême droite ou d'autre, il faut des outils, il faut des syndicats, il faut des fédérations de parents, il faut tout ça pour faire en sorte d'avancer collectivement. Ça ne suffit pas de confier les destins aux institutions. Il faut aussi qu'on ait des espaces dans lesquels les citoyens, les citoyennes, les gens engagés puissent rentrer. Les fédérations de parents, qui sont un peu mon cœur de métier à la base, sont centrales là-dessus. Moi, je me rappelle, pour l'anecdote, et évidemment, je vais sur ton sujet. On avait viré j'étais en Seine-Saint-Denis à l'époque, j'étais président de l'FCP en 93 pendant longtemps, parce que mes gamins ont leur scolarité là-bas, et on avait viré un gars parce qu'il était au RN, et donc, je vais vous faire un procès. Faites un procès, monsieur, il n'y a pas de souci, mais quand vous avez une charte éducative qui interdit les discriminations, qui interdit le racisme, qui interdit toute forme en fait d'intolérance, et ben vous n'avez rien à faire dans une fédération qui prône le contraire, et c'est contre-intuitif par rapport au statut. Et puis j'ai un bon avocat, on y va, quoi. Mais je me... à l'époque, ce qui paraissait assez normal, aujourd'hui, il n'est pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tolérance à la bienséance. Bon, puis après tout, on n'a jamais essayé. Ça commence à se décliner un peu là, sur le terrain. Donc il y a un truc qui est en train de craquer, et je pense qu'on a intérêt, nous, à se préoccuper de ça. Comment est-ce qu'on réinvestit le champ associatif? Comment est-ce qu'on réinvestit en fait tous les espaces qu'on a créés, qui ont été créés d'ailleurs depuis très longtemps, et que petit à petit, pour plein de raisons, hein, le politique a évidemment une responsabilité là-dedans, on peut se faire déposséder, et ça peut être compliqué derrière. Donc voilà, vous dire ça, parce que quand tu me dis le manuel et l'intellect, oui, l'école fait ça. L'école fait ça parce que c'est son projet éducatif, parce que c'est l'objet. Souvent, je donne cet exemple-là parce qu'on est content quand on est papa ou maman, ou les deux, enfin, peu importe. Aujourd'hui, justement, on peut dire les deux. C'était pas le cas il y a quelques années, quand même. Quand on reçoit l'écolier de Pâques, les lettres pour la fête des mères, etc., en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'enseignante est en train d'apprendre aux enfants à maîtriser une technologie qui s'appelle le stylo. Ça n'a pas toujours existé dans l'histoire de l'humanité, le stylo. La peinture, ça n'a pas toujours existé dans l'histoire de l'humanité. Donc on est en train d'apprendre dans les petites classes, en maternelle en général, aux enfants à apprendre une technologie qui s'appelle le stylo. D'ailleurs, vous remarquerez quand vous irez dans les centres commerciaux, si vous n'avez pas fait l'expérience vous-même, que les stylos ou les feutres sont de tailles différentes, parce qu'il y a l'action de la motricité. Il y a la question de maîtriser une technologie, et ce n'est pas neutre. Ce n'est pas neutre que de faire ça, donc on est sur un rapport intellectuel, mais sur un rapport manuel aussi, parce que les deux sont liés et que l'être humain se construit. Au fil de son histoire, l'humanité, l'homo sapiens, avec deux sapiens ou avant, se construit justement sur la maîtrise d'une technologie qui se traduit dans une institution qu'on appelle l'école, qui ne s'est pas toujours appelée comme ça, pour faire en sorte que les savoirs, les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être puissent être faits dans un cadre collectif avec quelqu'un dont c'est le métier, qui s'appelle un enseignant ou une enseignante. Et ça, ce n'est pas neutre. Donc, tu m'avais dit 10 minutes, je peux m'arrêter là si tu veux.
Non, non,
je fais super attention au temps. Parce que moi, c'est pas parce que je suis député, c'est parce que je suis latino. Oui. Et latino, on a tendance à être volubile.
Oui. 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 On m'a changé le micro, mais ça m'a paru moins bien. Non, le petit rebond que je voulais faire, c'était que l'école, oui, peut. Ce que tu dis, éduquer à la fois au matériel et à l'intellectuel, et c'est ce qu'elle fait. Cependant, les constats que dressait Marie au départ, disant qu'il y a une valorisation de plus en plus forte, et peut-être un peu plus tard que la maternelle, de la matière abstraite, et qui en effet crée ces inégalités. Voilà. Est-ce que tu partages ce constat, et est-ce que c'est une fatalité que d'avoir cette valorisation inégale des savoirs?
Alors, dans le monde actuel, oui, mais je pense que c'est important d'avoir la profondeur de l'histoire quand on s'intéresse à ces sujets-là. Par exemple, l'école du Moyen-Âge, ce qu'on valorisait, c'était d'apprendre à faire la guerre. Et d'ailleurs, tout le monde n'avait pas accès à l'école, puisque c'était fondamentalement la féodalité, à qui on transmettait un certain nombre de savoir-faire, de connaissances, qui étaient ancrées dans le moment dans lequel on était. Voilà, on ne fait pas les choses de la même façon aujourd'hui, quoi que ça se discute avec le SNU maintenant, mais ça va changer. Mais la question de ce qu'on enseigne aux enfants est évidemment différente selon l'époque dans laquelle on se situe. Alors, oui, il y a dans le fonctionnement de l'école, dans ce qu'on enseigne aux enfants, dans les moyens qui sont accordés selon le territoire dans lequel on habite aussi, ou dans la famille dans laquelle on est né, des approches différentes de l'école qui font que ça génère des inégalités, soit des inégalités sociétales, mais des inégalités construites. Je pense que c'est là-dessus que Marielle est sur la question des moyens, notamment à l'école, etc. Mais ça, je pense que fondamentalement, ça repose sur des imaginaires collectifs, des croyances collectives, que l'école de la République française, comme celle de Chine d'ailleurs, comme celle de Cuba, que je connais plutôt bien aussi, repose sur l'élitisme républicain et la méritocratie républicaine. Alors en France, évidemment, la classe sociale qui accède à ça n'est pas la même. À Cuba, c'est en gros, faut être fils du PC cubain, voilà, en Chine aussi, ou alors chef de grande entreprise multinationale. Voyez, c'est-à-dire que la classe dominante organise aussi l'école pour reproduire les inégalités, parce que c'est son affaire. Et comme disait l'ambassadeur des États-Unis au Chili pendant le coup d'État, il n'y a aucune classe sociale qui se suicide. Donc à partir de là, c'est normal que dans une société instituée, celles et ceux qui font les lois, celles et ceux qui font les règles, celles et ceux qui aussi organisent le recrutement des enseignants avec ce qu'on attend d'eux, reproduisent ces inégalités. D'ailleurs, si on regarde le recrutement des enseignants, ça répond à cette logique-là. C'est-à-dire que quand vous avez un concours d'enseignants dans lequel il y a 100 places, ça ne veut pas dire que le 101e n'est pas bon. Ça veut dire qu'il n'est pas 100e. Et que quand il est en situation devant élève, il reproduit ce à quoi il a été formé, comme un ouvrier de l'automobile a été formé à être le meilleur automobile possible. Et ben, on forme les enseignants à être le meilleur enseignant du monde, et à ce titre-là, il faut qu'il organise la compétition dans sa classe, parce qu'après tout, c'est avec ça qu'on va trier les élèves, c'est avec ça qu'on va trier les jeunes, c'est avec ça d'ailleurs que, si on met une couche de Parcoursup là-dedans, on va pouvoir déterminer son destin éducatif, et ça, dès la seconde, et on sait bien que la seconde n'est qu'un sas d'étape, puisque les inégalités sont construites avant, et notamment dans les petites classes. Donc c'est tout un système global qui est une croyance collective, et on est tous dedans, parce que c'est ce qui permet de faire tenir le chose. C'est-à-dire que si on n'a pas une croyance collective ensemble, de se dire « ça va faire du bien, ça c'est ce qui nous permet de faire de la croissance », ceux qui sont décroissants, l'école c'est pas pour vous en fait, pour être clair. Voilà, on va se le dire tranquillement, il n'y a qu'à voir la cantine scolaire, c'est pas fait pour les gens décroissants, c'est pas fait pour ceux qui sont végétariens, c'est récent tout ça. C'est très récent. Donc les imaginaires collectifs qu'on peut partager ou pas, les croyances collectives qu'on peut partager ou pas, ce qui nous motive, je pense, ici, parce qu'on est au rencontre de Cluny, on n'est pas au MEDEF, là. On peut tranquillement se dire que ce que nous portons, par exemple, ne serait-ce que l'enseignement de l'écologie à l'école, je dis l'enseignement en tant que discipline, ce n'est pas une réalité. On enseigne le SVT, on enseigne les écosystèmes, mais globalement, enseigner à l'écologie, comme par exemple l'enseigne Marc-André Sellos au Muséum d'Histoire Naturelle, ce n'est pas enseigné dans l'école, sauf par des enseignants qui sont, on va dire, militants ou woke, selon vous vous situez dans l'échiquier. Donc tout ça fait que la réponse à ta question, elle est là-dedans, c'est que tant qu'on ne changera pas cet imaginaire d'arrêter de faire de la compétition entre les élèves pour faire en sorte qu'on soit le meilleur de la classe, comme le décrivait très bien Marie, pour être, à un moment donné, pouvoir passer le champ du tri social, du tamis éducatif, c'est-à-dire que la réussite scolaire est intimement liée à l'imaginaire d'une réussite professionnelle ou sociale, eh bien on aura du mal à inventer une autre école, mais je pense que au regard des résultats actuels, indépendamment de la démocratisation de l'enseignement, que ce soit de la maternelle jusqu'à l'université, il y a de plus en plus de personnes qui remettent en question ce modèle, parce que d'abord, il ne fonctionne pas forcément, et que surtout, qu'on soit parent, qu'on soit enseignant, qu'on s'intéresse aux questions éducatives dans l'intérêt de l'enfant, on ne supporte plus les souffrances des élèves au sein de l'école. Donc le fait de ne plus supporter les souffrances, de ne plus supporter le harcèlement, de ne plus supporter les punitions collectives, qui sont d'ailleurs illégales, de ne plus supporter que des élèves qui n'ont pas de quoi faire les devoirs à la maison, sachant que c'est illégal depuis des dizaines d'années à la maison, eh bien je pense que de plus en plus, il y a des Françaises et des Français, ou des concitoyens et des concitoyennes qui ne supportent plus ce fonctionnement éducatif parce que le coût social à payer, le coût des générations qui en échappent est tellement insupportable que petit à petit, on commence à devenir majoritaire dans l'opinion. Mais ça ne veut pas dire qu'on est majoritaire dans la classe politique.
Merci. Merci. Donc on a cette déconnexion de l'école vis-à-vis de ces savoirs matériels, puisque cette concurrence elle se fait plutôt sur les matières les plus valorisées, abstraites. Je me tourne vers Martine, donc, par rapport à l'école, qui est, je sais que dans ta vie aussi, tu as été, par ailleurs, professeur des écoles, mais plutôt de ton point de vue d'acteur associatif, d'un Ripper Café. Déjà, ça va être bien d'expliquer aussi à tout le monde qu'est-ce qu'un Ripper Café, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Eh bien, quand on est un Ripper Café, quelle relation on a aux jeunes d'aujourd'hui, aux collégiens, aux lycéens, à l'école ? Est-ce qu'il y a une déconnexion ou est-ce qu'au contraire tu penses qu'il y a des belles relations qui existent et que ces jeunes ne sont pas déconnectés du monde des objets que tu connais très bien ?
Eh bien merci. Donc un Ripper Café, ça n'est pas un endroit où on répare les machines à café. Ça n'est pas non plus un café où on fait de la réparation, mais c'est un lieu de réparation où on offre le café. Dans un Ripper Café, la convivialité a toute son importance. Un Ripper Café permet de dédiaboliser les pannes et de reprendre contact avec l'objet, le respecter, le ramener à sa fonction première. C'est une relation assez intime avec l'objet pour le réparateur, mais également pour la personne qui amène son objet à réparer. On l'ouvre, on fait connaissance. On essaye de le comprendre et ensuite on le respecte. Je vais revenir sur le fonctionnement du Ripper Café. C'est une association internationale qu'on trouve sur tous les continents où on accueille les propriétaires des objets avec leurs objets. Ils se retrouvent face à des bénévoles réparateurs et ils participent, selon leur volonté, bien sûr, à la réparation de l'objet. Et comme je l'ai dit précédemment, cela participe à la dédiabolisation des pannes. On est très, très intéressés par HOP, parce que nous aussi, nous nous battons contre l'obsolescence programmée en permanence face à des objets qui sont fabriqués pour ne pas être réparés. Et comme nous sommes une association, comme les réparations sont gratuites et comme nous fonctionnons avec notre cœur, on réussit de façon totalement officieuse à contourner cette obsolescence programmée parce que la plupart des réparateurs, qu'ils soient de provenance d'anciens professionnels, des MacGyver ou des autodidactes, se permettent... beaucoup de fantaisies qui vont redonner vie aux objets. Et ça, ça nous fait toujours très, très plaisir. Les jeunes. Où sont les jeunes dans les Ripper Café ? Eh bien, les jeunes, ils sont enfermés dans les murs du système scolaire. Alors que les textes disent qu'il est absolument intéressant que dans les parcours scolaires, chaque enfant doit participer à des sorties scolaires qui favorisent l'acquisition de connaissances et de compétences, etc., etc. Pourquoi ils sont enfermés dans les murs du système scolaire ? Parce que sortir des enfants des murs de l'école, ça veut dire avoir un enseignant déjà qui va monter un projet, qui devra être validé, qui va devoir remplir des dossiers pour pouvoir sortir ses enfants de l'école. Alors après, vous me direz, est-ce que la réparation ne pourrait pas rentrer à l'école ? Alors la réparation, elle pourrait rentrer à l'école. Mais là, on se retrouve face à des problèmes de sécurité, de responsabilité, d'espaces qui ne sont pas adaptés, de matériel que les enfants ne peuvent pas utiliser. Toujours pour les mêmes enfermements. Voilà. Ensuite, il y a aussi ce rapport au numérique qui détourne beaucoup de choses. J'ai découvert que dans les programmes de 5e et 4e, la réparation pouvait être abordée, sauf qu'elle est abordée par des vidéos. Voilà. On pourrait aussi envisager... Voilà, on pourrait aussi envisager de faire rentrer la réparation à l'école sur les temps en dehors des horaires d'enseignement, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle les temps après l'école. Là, on va se retrouver face au même problème. Les durées sont limitées, c'est 1h30. Il faut soit avoir au sein de l'école l'espace aménagé qui va pouvoir permettre aux enfants de se confronter à la réparation des objets, ou alors il va falloir prévoir un transport avec tous les aspects de responsabilité. Aller-retour, ça prend beaucoup de temps. Et puis, là, je perds le fil. Mais ça n'est pas grave.
Une petite question par rapport à ces premiers constats. Est-ce qu'il y a un risque de perte de compétences générationnelles d'entretien et de réparation des objets? Puisque moi, j'ai l'impression de voir beaucoup de retraités qui s'investissent et de ne pas voir ces jeunes dans toutes ces manifestations et ces ateliers.
Oui, il y a un gros risque de perte de compétences. Alors si je refais le focus sur leur hyper café, alors là on se fait extrêmement plaisir parce que les réparateurs entre eux se transmettent, parce que personne n'est complètement complet, et se transmettent ces compétences. Mais il y a une rupture totale entre cette génération-là et les générations à venir. Ça, c'est très clair. Mais même même entre les générations des retraités aujourd'hui, parce que les repair cafés sont souvent quand même ont souvent des acteurs retraités. Avant de penser aux jeunes générations qui sont scolarisées, on peut parler des générations intermédiaires qui sont complètement déconnectées de la réparation et qui sont complètement dépendantes de tous ces besoins qui sont créés en permanence, ces nouveaux besoins dont tu sais très très bien parler, en plus de l'obsolescence programmée, qui se retrouvent happés par ces désirs de consommation avec ce leurre d'une belle vie et d'un bonheur complètement illusoire. Et ces générations intermédiaires, n'ont plus vraiment conscience de l'enjeu d'aujourd'hui. Et ne font pas non plus la démarche d'y impliquer leurs enfants. On a chez nos réparateurs, qui sont souvent retraités, des grands-parents qui, eux, transmettent à leurs petits-enfants. Mais entre les deux, il ne se passe pas grand-chose.
Merci. Ben, je suis tombé sur ce livre qui parle très bien des enjeux de consommation. Surconsommation, on arrête tout et on réfléchit. C'est un peu une blague puisque c'est moi qui l'ai écrit, mais en effet, voilà, les manières de renouveler les besoins et d'accélérer le rythme d'achat sont assez diverses. Donc là, on a tressé ces constats sur cette école déconnectée, sur ces risques de perte de compétences. Et pourtant, l'école, c'est un sujet politique. On peut la fonder, c'est passer voilà, de l'instruction à l'éducation, donc on peut la fonder autrement. Et donc maintenant, dans cette deuxième partie, avant de passer à toutes vos questions, l'idée, c'est de voir comment on peut changer l'école. En me tournant vers Rodrigo d'abord, quelles propositions portes-tu? Alors peut-être pas toutes, mais quelles propositions prioritaires portes-tu pour faire évoluer l'école, notamment dans le sens d'une meilleure connexion et capacité à faire durer le matériel et à préserver nos ressources?
D'abord, si tu permets, je voudrais réagir à ce que vient de dire Martine, parce que la grande, grande majorité des visionnages qu'il y a sur le web, ce sont des choses du faire. Par exemple, il y a un jeune qui s'appelle Goran le permaculteur, je ne fais pas de la pub, qui est très jeune, qui a fait sa ferme et qui explique en fait avec des tutos comment est-ce que vous pouvez faire pousser vos salades, vos trucs. Voilà. Ce n'est pas des personnes aux cheveux blancs, c'est un jeune. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez, la base de l'Internet, c'était le « how to do ». C'est-à-dire que c'était vraiment un réseau international qui permettait à des personnes comme moi, par exemple, qui a toujours grandi en milieu urbain, où les notions mécaniques étaient quand même en dessous de la limite du raisonnable, de l'acceptable, dans un monde dans lequel, évidemment, en tant qu'écologiste, je suis parfaitement conscient de la fast fashion, de l'obsolescence programmée, de la surconsommation, évidemment, mais ce n'est pas pour autant que c'est valorisé dans l'école. Et là, on a un souci, parce qu'en fait, d'un côté, l'Internet, les sujets les plus partagés sont pour permettre de faire et de partager des expériences, des savoir-faire, des savoir-être. Et de l'autre côté, on a un regard sur la jeunesse qui indiquerait que, tout à coup, la jeunesse 2025 serait moins consommatrice que celle des années 70, ça reste à prouver, que serait moins susceptible d'avoir des voitures qui polluent que la génération des années 60, ça reste à prouver. Il y a que, on est quand même dans un conflit générationnel qui, à mon sens, n'est pas le bon curseur. N'est pas le bon curseur d'aller là-dessus. En plus, ça dirait aussi que nos jeunes, nos enfants seraient devenus quand même des débiles profonds, qui seraient complètement insensibles à ce qu'ils regardent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils disent, et que tout à coup, la société digitalisée, la société numérique, la civilisation dans laquelle on est, comme dirait Bernard Stiegler, ne provoquerait pas non plus des remèdes à ça. Quand on est sur... philosophe, sur la philosophie du pharmacone, dans le poison, il y a aussi le remède. Et quand je bosse avec des jeunes, moi je bosse avec beaucoup de jeunes en tant que député, franchement, sur plein de sujets, ils ont un monde d'avance quand même. Faut se mettre aussi un peu à cette tension. Donc, la question, c'est que tout ça, c'est pas valorisé à l'école. Ce que tu dis, c'est qui m'amène à la proposition. C'est qu'on se rend compte que, pour rejoindre la question des inégalités, où se fait le truc violent, quoi, de dire... Maintenant, je vais être un peu vulgaire, hein, excusez-moi. Mon gamin, il est tellement con qu'au moins, il va prendre un métier, il va aller bosser et il va kiffer la life. Parce que quand je parlais d'imaginaire tout à l'heure, on a tous en imaginaire de la réussite collective. Je parle de façon globale, évidemment, je ne parle pas des personnes individuelles, vous ne reconnaîtrez pas là-dedans. C'est d'avoir son petit pavillon de banlieue, d'avoir son chien, sa bonne femme, ses gamins, etc. On reproduit ça parce que tout est fait pour qu'on pense comme ça. L'école apprend à ça, la télé apprend à ça, les journaux apprennent à ça, les générations, les grands-parents apprennent à ça, et que après c'est juste la race de chien qui change, la maison qu'on achète qui change, mais voilà, enfin, excusez-moi, j'ai 50 ans, le mythe du tout propriétaire, c'est pas Rodrigo Arenas qui l'a inventé. On a été éduqués là-dedans. Alors où ça se produit ce changement-là au niveau scolaire? Où est-ce qu'on sépare les bons élèves, comme tu disais, des mauvais élèves? Bah, c'est à l'entrée, c'est à la sortie de la troisième. À la sortie de la troisième, les gamins qui sont trop cons pour avoir une issue de discipline académiquement reconnue, eh ben, ils vont dans le lycée général et les autres ils vont dans le lycée pro. Moi j'ai connu ça. J'étais le seul gamin de ma... Moi, je grandis en cité, en banlieue. J'étais le seul gamin de toute la bande dans laquelle on était, qui a été au lycée général. Tous les autres, ils n'étaient pas plus cons que moi, hein, je vous assure. Hein. Il y en a même certains qui étaient plus méritants du point de vue de leur connaissance, de leur savoir-faire, de leur transmission aussi, des parents, etc. Bah, ils ont tous été dans le pro, ils ont fait méca, etc. Même pour aller plus loin, moi j'étais au lycée classique, Louise Michel à Champigny-sur-Marne, et tous mes potes dans le lycée Langevin-Vallon qui était juste à côté. Ils s'étaient séparés par une chaîne. C'est-à-dire que ces symboles matériels, mais conceptuels, sont le cœur de la création des inégalités, là où ça commence à être sérieux d'ailleurs. Vous regardez, il y a tous les Parisiens, je suis député parisien, qui partent en banlieue, ils mettent les gamins dans les écoles publiques de la maternelle à la primaire à partir du collège. Attendez, c'est sérieux là? Là, on va dans le privé. Il y a un humoriste qui s'appelle Haroul qui dit voilà, Saturnin, il va pas aller au collège avec Mamadou et socialiste mais pragmatique. Alors lui, il le dit sur le ton de l'humour, mais ça, c'est une réalité. L'école Montessori, qui est à Montreuil, c'est pas une école publique, c'est une école privée, mais c'est pas une école parce qu'on veut une pédagogie différenciée. L'école publique fait du Montessori, l'école publique fait du Freinet, l'école publique fait les pédagogies, mais simplement, c'est un moyen moralement acceptable de prendre son môme parce qu'on est soi-disant de gauche et de le mettre dans une école dans laquelle ça va pas être un frein dans la course. Vous avez des exemples qui vous viennent? Vous avez des voisins que vous connaissez, vous avez parfois même dans vos propres familles des gens qui réagissent de cette façon. Alors, oui, politiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense qu'il faut un lycée unique. Bon, c'est-à-dire qu'il faut avoir un lycée dans lequel les savoirs pratiques et les savoirs théoriques sont équivalents et qu'un 20 sur 20 en français équivaut à un 20 sur 20 en mécanique. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'un élève qui est excellemment bon en français, et c'est très bien, soit reconnu comme supérieur à un gamin qui sait réparer un vélo ou réparer une voiture. C'est une vision de la société.
C'est les choses qu'on a voulu valoriser pour organiser et donner une justification éthique et morale aux inégalités entre les enfants. Alors, cette proposition est sur la table. Mais elle n'est pas partagée par la classe politique. D'abord parce que leurs enfants, ils en profitent aussi. C'est une réalité. Et qu'à un moment donné, avoir cette disruption dans la réflexion par rapport à l'école, c'est super compliqué. Vous imaginez si on a des lycées pas polyvalents, hein, pas des lieux dans lesquels cohabitent des enfants qui vont dans le pro et des enfants qui vont dans le général. C'est-à-dire qu'il y a un tronc commun où les enfants peuvent choisir de faire des matières manuelles, dites sales, parce qu'on a la graisse sous les ongles, c'est ça la mécanique. Et qu'on peut aussi faire de la philosophie. D'ailleurs, vous remarquerez que la philosophie a été retirée à la grande majorité des lycées professionnels sous Blanquer. C'est pas neutre. Il n'y a que la seule discipline qui permet aux élèves, à un moment donné dans leur vie, de réfléchir par rapport à eux, par rapport aux autres, par rapport au monde, la seule discipline académique leur a été supprimée. Ça dit des choses. Donc, une fois qu'on fait le constat, la question c'est comment on devient majoritaire sur cette idée-là. Et je ne suis pas quelqu'un qui a un caractère de désespoir. Il me reste 3 minutes pour vous dire que, évidemment, c'est un combat qui est long. Évidemment que c'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, dans les années fin 60, début 70, en fait, ça a commencé dans les années 50, mais on va dire que quand vous êtes dans les villages ou dans les villes de France, il y a sur les frontons école, écrit « école des filles, école des garçons ». Comme quoi, on peut, sur un temps court, faire des réformes extrêmement profondes. Parce que la pire des inégalités, c'est d'ailleurs d'abord l'inégalité de genre. On a réussi d'une certaine façon, parce que ça ne veut pas dire que c'est fini, mais d'une certaine façon, intégrer que dans les cours d'école, eh bien, on puisse avoir des filles et des garçons qui cohabitent, et même maintenant, dans la ville de Saint-Denis, qui cohabitent dans les toilettes. Alors, je ne vous raconte pas les parents, parce qu'ils sont aussi là-dedans. Ils sont aussi là-dedans. On est tous là-dedans. C'est-à-dire que de dire que, même ici, les filles font la queue pour aller aux toilettes, moi, je suis passé crème. Vous voyez, c'est que dans nos représentations, c'est-à-dire dans un lieu dans lequel nous pensons la société différemment, dans lequel nous pensons l'écosystème d'une façon différente, dans lequel nous réfléchissons la biodiversité comme quelque chose qui se complète, qui doit travailler ensemble, qui doit réfléchir ensemble, on a les toilettes des filles, les toilettes des garçons, et vous faites la queue, mesdames, je suis désolé, moi je suis passé très rapidement, et même Benjamin est passé rapidement. C'est-à-dire qu'on est passé à deux, vous n'étiez même pas passé tous. Donc vous voyez, c'est ça la question. Donc une loi, et je conclue là-dessus, j'ai encore un petit peu de temps là, je conclue là-dessus, c'est que une loi, ça permet d'agir sur les comportements, mais ça n'agit pas sur les mentalités. Les mentalités, c'est plus long. On dit d'une certaine façon qu'on met... Allez, une génération, voire deux générations, avoir un vrai changement de mentalité. C'est-à-dire qu'on a une petite chance qu'un enfant qui va à l'école à 3 ans, quand il sort à 18, on va prendre cette moyenne-là, on a une petite chance qu'il ne pense pas comme ses parents. Et on a une petite chance qu'une fois adulte, s'il choisit ou pas d'ailleurs d'avoir des enfants, ou si elle choisit ou pas d'avoir des enfants, eh bien, elle transmette à ses enfants un monde, une façon de penser qui est différente de celle de ses parents. Mais ce n'est pas évident. Et pourquoi l'école est importante dans cette lutte-là? Parce que quand vous êtes un enfant qui a grandi dans une famille machiste, quand vous êtes dans un enfant qui a grandi dans une famille antisémite, raciste, discriminante, eh ben, il n'y a qu'à l'école où on vous apprend la règle commune, il n'y a qu'à l'école où on vous apprend la loi qui nous régit, qui permet de ne pas nous foutre sur la gueule et qui permet de lutter contre les intolérances qui se traduisent in fine sur les discriminations. Les lois contre les discriminations existent. Mais ce n'est pas parce qu'elles existent que pour autant il n'y a pas des discriminations. Donc c'est le temps long, c'est pour ça que je pense que la société civile, organisée ou pas, est très importante et ce qui se fait dans les repères cafés, comme vous dites madame, sont extrêmement importants parce que ce n'est pas à la place de l'école, c'est en complément, en particulier quand des enseignants n'ont pas cette capacité d'apprendre à réparer des choses. Donc s'ouvrir, ça ne veut pas dire faire à la place des enseignants, ça veut dire être complémentaire pour faire en sorte que les générations qui vont venir ne disent pas que Greta Thunberg doit être discriminée parce qu'elle est autiste, au contraire, elle apporte des choses à la société, ça se passe à l'école, mais ça se passe aussi dans la société, et que tout ça, ça doit avancer ensemble.
Et peut-être, petite question pour prolonger cette question de refonder l'école, est-ce que ça a du sens d'avoir un lycée unique ? Si on continue d'avoir des lycéens qui passent 6 heures par jour sur leur écran et qui sont amenés à se connecter en permanence, que l'écran est partout dans les salles de classe, En complément, sur deux, trois minutes, est-ce que ça ne participe pas d'une refondation de l'école que d'essayer d'avoir une distance par rapport au numérique ?
Alors, moi, je ne parle pas de numérique parce que le numérique, du coup, tu es dans un truc de consommation. Je parle plutôt de digital. Parce que le digital, c'est le faire. Donc, tu vois, déjà, les mots qu'on emploie sont très importants quand on réfléchit sur ces sujets-là. Deux exemples. On est dans la même situation que Michel Serres quand il parle de la télévision. On a perdu cette bataille, manifestement, puisque les grands médias de masse ont pris le pas sur ce qu'ils disaient, comment est-ce que la télévision pouvait apporter un outil de libération. D'ailleurs, si vous vous souvenez, pendant la Covid, les enfants ont eu la classe à travers la télévision, à travers une émission qui s'appelait Lumni. Cette émission n'est pas venue par hasard. C'est parce que sur un plateau de télévision, le président de la FCPE, en l'occurrence moi à l'époque, avait dit que les médias avaient une grande place de responsabilité sur la façon dont on pouvait faire l'école à distance. Et il s'est avéré que Lumni s'est mis en place parce que précisément, on s'est nourri en tant que parents d'élèves de ceux qui étaient chez les Français de l'étranger et qui voyaient bien que pour les personnes qui étaient éloignées du centre-ville ou des lycées de proximité, à utiliser la télévision avec des cassettes vidéo et des pédagogies adaptées pour permettre à des enfants éloignés de l'école d'apprendre à lire, écrire, compter. Donc c'est pas quelque chose qui... On n'est pas dans un vase clos. Ça, la première chose. La deuxième, il y a une expérience qui est menée en Seine-Saint-Denis par l'Institut de recherche et d'investigation du Centre Georges Pompidou, qui était l'école de pensée de Bernard Stiegler, qui utilise un logiciel, c'est un jeu en fait, qui s'appelle Minecraft, pour ceux qui connaissent. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Alors, il y a besoin d'adultes, il y a besoin de gens formés. La question, c'est que les enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes. Les jeunes ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils utilisent un logiciel pour réfléchir, de refaire complètement le quartier dans lequel ils habitent, et à travers un jeu vidéo. Et ça marche bien. C'est-à-dire que la question n'est pas la technique. La question, c'est ce qu'on en fait. Est-ce qu'on utilise les jeux vidéo et les applications pour faire en sorte que nos gamins soient connectés à Shane, qui maintenant va vendre au BHV ? Ou est-ce qu'on utilise le numérique, c'est-à-dire les outils digitaux, avec des personnels formés pour apprendre aux enfants à coder ? Pourquoi ? Parce que le codage est un langage et que ça s'apprend comme le français. Je parais, peut-être paraît-il iconoclaste, mais je pense qu'on doit apprendre à coder comme on enseigne le français. C'est une technologie qui est là. De la même façon qu'on a l'imprimerie qui a permis la démocratisation de l'accès aux connaissances et aux savoirs, qui a accourci le rapport aux distances, le rapport à l'autre, le rapport au monde, le rapport à soi, nous avons une technologie aujourd'hui, que vous le veuillez ou pas, qui est là, qui nécessite que les enfants la comprennent, parce qu'on doit leur apprendre à naviguer sur l'Internet ou sur le numérique de la même façon qu'on a appris à voyager en regardant les étoiles. Ça s'apprend. Et ça s'apprend dans un lieu qui s'appelle l'école, avec des personnels qui sont formés. Il ne s'agit pas de faire l'école fermée. Il s'agit d'avoir des adultes et des personnels qui ont une expérience, qui ont des savoir-faire, pour enseigner précisément aux nouvelles générations à appréhender ces évolutions techniques, pour ne pas en être dépendant, mais en faire un outil de libération. Après tout, quand on lit un livre, rappelez-vous, c'est que le premier livre était la Bible, ça fait une guerre de religion derrière, et parfois, quand on regarde le papier, il y a aussi la pornographie. Tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend. Et il faut des écoles pour ça. Mais il s'avère que, quand j'entends des fois comment on parle de la jeunesse, on a l'impression quand même qu'il faut faire des outils numériques, quelque chose qui est l'outil du diable, alors qu'il y a énormément de gens qui en font vraiment un outil de partage, de connaissances, d'appréhension, et qui apprennent à des personnes à coopérer dans une école qui apprend la compétition entre les élèves. Donc ça peut être une solution à condition de bien l'appréhender.
Alors voilà de quoi commencer à débattre aussi. Je pense que Marie Durubella va vouloir réagir à ces différentes propositions. Et sur vos travaux ou tes travaux, Marie, sur cette éducation, avec tes constats initiaux de ces inégalités, de cette fuite en avant vers les diplômes, on est de plus en plus nombreux, mais les inégalités se perpétuent. Comment est-ce qu'on pourrait sortir de ce culte de l'intellectuel ? Quelles conséquences possibles sur la société, sur les inégalités qui la traversent ? Est-ce qu'il y a des points d'appui aussi pour penser ce changement qui est nécessaire dans l'école et que tu étudies au long de tes ouvrages ou articles ?
Bon, moi, il y a beaucoup de questions que je ne connais pas assez pour les discuter. Mais donc, moi, ce que je pensais dire, c'est qu'évidemment, pour améliorer la situation, on peut jouer sur les structures. Par exemple, le lycée unique, etc., ça se discute tout à fait. Mais ce qui est plus difficile, c'est que derrière les structures, il y a des valeurs. Et le problème, c'est comment on peut arriver à jouer sur les valeurs qui sont la valorisation de l'abstrait et son pendant, le mépris du manuel. Je pense que c'est ça l'enjeu final, finalement, le plus important. Il y en a un autre sur lequel je reviendrai à la fin. Et pour nourrir cette réflexion de comment on peut faire, j'aimerais vous dire quelques mots sur un auteur que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, qui est Mathieu Crawford, qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle « Éloge du carburateur », hein, c'était en 2010, c'est un philosophe qui a découvert, en ouvrant un garage, que finalement, le travail manuel artisanal, ben, c'était très intelligent. C'était très intelligent. Et il défend dans son livre, il décrit dans son livre le plaisir qu'il a à réparer donc, des motos. Hein. Il nous explique très concrètement que c'est bien plus compliqué qu'un certain nombre des tâches intellectuelles qu'il avait à faire auparavant. Auparavant, il faisait des résumés de recherches pour une revue, etc. Donc, il nous explique que ça, c'est quand même beaucoup plus futé. Et il nous explique aussi que ça donne des satisfactions bien plus grandes parce qu'on voit ce qu'on fait. Il dit finalement les critères de réussite d'un travail intellectuel sont extrêmement flous. Enfin, on le sait bien, quand on fait un livre, on ne sait jamais si c'est bien. Quand on fait une copie, on ne sait jamais si elle est bonne. Mais dis-moi, quand je répare une moto, puis que je vois le gars qui part tout content, qui me fait un petit sourire, là, tout ça, il dit, voilà, là, j'ai fait quelque chose. Donc, il dit, c'est bien plus éducatif hein, de faire travailler les élèves sur des objets. Il dit ça, au moins, ils voient le verdict du fil à plomb. J'aime bien cette expression. Alors que sinon, quand ils font des choses un peu générales, les sanctions, ça va être de l'ordre de, on va flatter un peu leur ego, on va flatter leur estime d'eux-mêmes, etc. Mais ils n'auront pas hein, ce jugement un peu piquant hein, des objets qui résistent. Et je pense que ça vaut vraiment pour les étudiants. Bon, à l'heure actuelle, on a la moitié d'une classe d'âge qui est sur les bancs des universités. Et souvent, je me dis, mais ils sont complètement coupés souvent du réel. Et finalement, comme le disait déjà un économiste il y a 50 ans, ils deviennent vite inemployables dans les métiers manuels sans pour autant être capable d'exercer vraiment des professions intellectuelles. Donc ils sont entre deux, c'est peut-être pour ça qu'ils sont si malheureux, en ce moment il y a des enquêtes qui sortent, qui montrent qu'ils sont vraiment malheureux, les étudiants, parce que finalement ils savent bien que ce qu'ils font c'est un peu du jeu souvent, que c'est pas là-dedans qu'ils vont travailler. Donc c'est pas forcément si éducatif que ça de rester des années. Hein. Je vous rappelle par exemple, à 21 ans, on a la moitié des jeunes qui sont encore à l'école. Bon, il y a quelques décennies, c'était 10%. Hein. Maintenant, on a vraiment la moitié. Hein. On passe sa jeunesse à l'école. Est-ce que c'est ça qui est formateur ? Alors, comment on pourrait en sortir ? Bon, on peut imaginer des tas de choses. Après, il faudrait les tester, les évaluer. Je pense que le premier obstacle, c'est quand même plutôt, bien que ça peut choquer certains d'entre vous, le mode de recrutement des enseignants. C'est-à-dire que les enseignants sont recrutés sur des qualités intellectuelles. On se demande à peine s'ils sont capables d'interagir avec les jeunes. Et puis pour le reste, qui sort de leur discipline, rien. Hein, on leur demande de faire parfois du pluridisciplinaire. Et à chaque fois, c'est une catastrophe. Ils ne se sentent pas capables, pas formés, etc. Donc, il y a vraiment un problème de recrutement des enseignants, à moins d'admettre, je n'y reviendrai peut-être à la fin, qu'il faut ouvrir la formation des jeunes à d'autres types de personnel. Et il y a effectivement plein de personnes, alors peut-être des personnes du Repère Café, d'ailleurs, entre autres, hein, qui pourraient participer, puisqu'il s'agit bien d'éducation. Hein, on n'est plus à sélectionner une élite, à former un petit noyau, on forme la jeunesse. Donc, ce n'est pas normal que ça soit limité à un corps d'académiques très compétents. Moi, je me rappelle quand je discutais avec des profs de fac, avec des profs de maths, ils me disaient « je ne suis pas un éducateur, je suis un mathématicien ». Donc, tout ce qui dépassait les mathématiques, ce n'était pas leur job. Donc, ça, c'est la première piste. Il faut vraiment réfléchir au recrutement des enseignants. Alors, après, derrière, évidemment, il y a la valorisation des disciplines, hein, et peut-être au sein d'une structure plus commune. Ça peut effectivement participer de ça. Il y a la présentation des métiers. Moi, je suis frappée, par exemple, qu'on ne présente pas la profession de dentiste comme un métier manuel. Alors, on va dire, ah ben, oui, il faut faire médecine. Mais c'est avant tout quelque chose de manuel. Donc, il y a toute une description des professions, y compris dans les brochures de l'UNICEF, qui ne valorise que la longueur des études, hein, la sélection par les études, et qui ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'on fait. Mais en arrière-plan, il y a quand même un autre facteur qui est peut-être encore plus important, c'est les inégalités dans la vraie vie entre les professions, entre les statuts professionnels. Si les gens veulent faire de l'abstrait et pas du manuel, c'est pas simplement parce qu'ils veulent pas se salir les mains en faisant du manuel, c'est aussi parce que le manuel n'est pas payé. Hein, parce qu'il est méprisé, etc. Donc, on ne peut pas raisonner sur les questions scolaires dans un contexte où les inégalités entre les statuts professionnels et les professions est si important. Ben, je pense que sinon, on n'y arrivera pas. Hein. Les parents voudront toujours ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, et le mieux, ben, c'est de pouvoir vivre avec un niveau de vie suffisant, des conditions, etc., et pas d'être maîtrisé par tout le monde. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ne pas penser que tout va se résoudre à l'école. De toute façon, on a toujours tendance à faire porter, on va mettre tout sur le dos de l'école, il y a quand même l'environnement. Les gens ne sont pas fous, les parents ne sont pas fous, les jeunes ne sont pas fous. Hein. S'ils restent à l'université, ce n'est pas parce qu'ils adorent les cours spécialisés que leur font des enseignants-chercheurs spécialisés. Hein. C'est parce qu'ils se disent, ah ben peut-être avec un bac plus 4, j'aurais mieux qu'un bac plus 3, puis un bac plus 3, un peu mieux qu'un bac plus 2. C'est assez dramatique quand on demande aux jeunes les études qu'ils font, ils vous disent même plus maintenant la spécialité, ils vous disent, je fais un bac plus 4. Voilà, et ça, ça suffit, c'est leur profession. Puis après, ils feront un peu plus. Et l'un des objectifs gouvernementaux, c'est qu'on ait bientôt 60% d'une classe d'âge diplômée des supérieurs. On est déjà au-dessus des moyennes européennes, sans avoir pour autant une jeunesse plus heureuse, un taux de chômage des jeunes plus faible, etc. Donc, on court vraiment au toujours plus de la même chose, qui est assez dramatique et qu'on voit dans plein de domaines, d'ailleurs. Voilà.
Et quand on dit toujours plus de la même chose, par exemple, nous, à HOP, une de nos propositions, c'est d'enseigner la réparation au collège ou au lycée, dans les cours de techno, par exemple. Est-ce que pour toi, c'est une bonne piste que d'essayer de vouloir rajouter des matières dans l'école ?
C'est un peu la tendance. Hein. Maintenant, l'école, elle fait l'éducation à tout, hein, avec des gens qui ne sont pas forcément justement prêts à le faire. Et il ne faut pas non plus trop charger la barre de l'école. Je pense qu'il serait bien, c'est qu'il y ait des gens non académiques, non enseignants, qui pénètrent dans l'école. Et puis, il y a le problème du temps non scolaire. Le temps non scolaire, il est très inégalitaire. Hein, c'est pour ça que quand j'étais tout à l'heure avec des lycéens qui me disent « Ah, il faudrait réduire le temps passé à l'école. » Ben oui, mais il y a le temps passé hors l'école. Et celui-là est bien plus inégalitaire. Hein, c'est pendant les vacances que les inégalités s'accroissent. Voilà, on le sait bien. Hein, qu'est-ce qu'offrent les familles, etc. Donc, ou bien, alors, ça peut être aussi, je pensais le dire à la fin, mais je peux le dire là, redonner plus de moyens et de vigueur donc, à l'éducation populaire, qui est une prise en charge des jeunes autrement hein, que dans les enceintes scolaires qui sont limitées, qui, de toute façon qui vont exploser si on continue. Enfin, les profs vont devenir fous, on leur confie tout et n'importe quoi. Il faut qu'il y ait d'autres types de personnel, peut-être d'autres lieux. Il faut quand même encadrer, c'est peut-être un peu militaire, mais aider les jeunes à grandir et les aider, quoi, parce qu'on peut pas non plus, mais on peut pas trop charger la barque scolaire, parce que dès que l'école a un truc, elle le scolarise. Il y aura des notes, il y aura des sections, l'école, elle absorbe tout et elle en fait tout des matières scolaires. Alors, faut s'en méfier un peu.
Alors, à la fois Rodrigo et Marie ont appelé à des liens qui doivent se retisser avec la société civile, avec les associations. Et justement, Martine, quand on discutait de cette table ronde, tu me disais qu'il y a quand même eu, malgré le constat du départ, que c'est difficile d'avoir des partenaires avec l'école, il y a eu des expérimentations intéressantes et des projets portés par Hyper Café. Ce serait peut-être bien que tu nous en dises un mot avant que tu puisses aussi réagir aux différentes propositions qui ont été faites.
Ok. Alors, des expériences concrètes hein, qui ont vécu en dehors de l'école. Alors, quelque chose de mixte déjà. Un travail avec une MFR du Clunisois, maison familiale rurale qui accueille un public qui est sorti un petit peu des rails de l'éducation nationale hein, et qui est particulièrement intéressée par tout ce qui est concret. Sur 2 ans, on a travaillé avec cette MFR sur plusieurs classes, sachant que dans un premier temps, nous sommes intervenus dans le cadre de la MFR avec quelques réparateurs qui ont réparé en live avec des enfants de façon pédagogique malgré tout du matériel de la MFR ou du matériel que les enfants avaient apporté. Et ensuite, sur une année, on a mis en place un calendrier où les enfants, par groupe de 10, je crois, venaient au Hyper Café sur une demi-journée et là mettaient la main dans le cambouis avec nos réparateurs. Ça, c'est facile avec une MFR parce que les MFR sont libérées d'un grand nombre de contraintes éducation nationale. Elles sont autonomes pour les déplacements, pour les horaires. Les enfants peuvent pique-niquer sur place pendant qu'un groupe est avec nous, l'autre groupe fait autre chose, etc. Donc ça, c'était extrêmement facilitant. C'était une belle expérience sur 2 ans, avec des enfants motivés. Notamment dans les formations agricoles, les enfants étaient particulièrement intéressés par tout ce qui était tondeuse, motoculteur, etc., outillage de jardin, mécanique, thermique. Une autre expérience qui est en train de se développer, ce sont les Repair Kids, donc les repairs pour les enfants. Qui, là, ne sont également en dehors du système scolaire, hein, puisque ce sont des activités qui sont proposées aux enfants dans des lieux hors école et qui leur permettent de découvrir ce qu'est la réparation. Donc là, avec les réparateurs, eh bien, ils démontent, ils récupèrent la visserie, font des tris, prennent des photos pour mémoriser après comment on va pouvoir réparer. Tout ça autour souvent d'objets qui ont du sens pour eux, c'est-à-dire leur jeu électronique. Comment ça se passe? Comment c'est à l'intérieur d'un jeu électronique? On peut dessouder un composant, on peut ressouder un composant. Ça, ils sont passionnés. À l'école, c'est très compliqué parce que pas de fer à souder ni à dessouder, bien évidemment. Réparer la lumière de leur vélo, remettre leur chaîne, la chaîne du vélo, faire des petits réglages pour qu'ils soient autonomes. Également choisir le bon outil, apprendre à le manipuler en toute sécurité et puis organiser aussi quelque chose aux périodes hivernales, créer des hôpitaux de poupées et des hôpitaux de jouets où les enfants sont impliqués dans la réparation de leurs propres jouets. Les repair kits sont en train de se développer. Un peu en France, beaucoup en Belgique, aux Pays-Bas bien sûr, parce que j'ai oublié de vous dire que les repair cafés sont nés aux Pays-Bas. L'idée de ces repair kits, c'est vraiment de célébrer l'apprentissage plus que la réussite de la réparation. C'est de permettre aux enfants de faire copain-copain avec leur objet. Et ensuite, un objet qui a été réparé, c'est un objet qui sera respecté par l'enfant. Une autre expérience concrète, pas très loin d'ici, dans l'Ain, à Châtillon, sur Chalaronne, pour ceux qui sont dans le coin, avec deux collèges. Et ils appellent ça un repair collège. Alors forcément en dehors des cours, entre 12h30 et 13h30, c'est toute une toute petite plage, mais forcément à l'initiative d'un prof qui est motivé, qui a rencontré le repair café un jour, et le projet est né. Deux réparateurs sont présents, avec le prof de techno, c'est souvent le prof de techno, quelquefois le prof de physique, chimie. Et là, on apprend aux enfants à diagnostiquer à faire les diagnostics, à aborder la réparation. Ça rentre dans les programmes de réparabilité des objets, mais comme je le disais tout à l'heure, les programmes de réparabilité des objets au collège se traitent à partir de vidéos, alors que là, c'est directement avec l'outillage qui est apporté par les bénévoles. Et comme ça n'est pas dans le cadre de la classe, il y a beaucoup plus de facilité. Et là, le repair café de Châtillon m'a confié que la grande passion, comme je le disais tout à l'heure, c'était de dessouder et ressouder pour les enfants. Il est possible d'inciter les collèges à créer des repair collèges. Pour ça, il faut bien sûr déjà contacter le chef d'établissement. Il faut être motivé. Si on a un contact avec un prof de techno ou de physique, c'est bien. Et on peut aussi vendre ça en proposant une sorte de partenariat par exemple, dans les cours de techno, les enfants ont des modules qu'ils utilisent pour exercer ce qu'ils doivent faire en techno. Et ces modules tombent souvent en panne ou ont besoin d'être réparés. Et déjà, juste le fait d'utiliser cette base-là très concrète d'objets qui sont utilisés par les enfants dans leurs cours et de leur proposer de réparer leurs propres objets, crée vraiment une sorte de responsabilité de la part d'enfants et un rapport à l'objet qui va devenir différent. L'objet n'est plus un objet de consommation, mais est quelque chose qui va nous apporter un mieux, une facilité dans notre vie et on en prend soin. Et puis je pourrais dire aussi que pour convaincre les établissements, les repair cafés partenaires proposent un SAV pour le pour pour le matériel du collège qui tombe très souvent en panne, et comme toutes les réparations sont gratuites, ça peut être un argument de poids pour permettre de rentrer dans les collèges. Et si j'ai 2 minutes encore, je voudrais terminer concernant les réactions, deux petites réactions à ce qui a été dit. Voilà. Rodrigo tout à l'heure parlait de changer et de modifier les comportements. Alors nous sommes très prétentieux au Ripper Café. Nous avons la prétention de changer les comportements sur notre territoire. Les comportements face au tout jetable, face à la démarche de réparation. Et on assume cette prétention. Ensuite, en ce qui concerne le rapport au numérique, les propositions très vertueuses que tu as faites par rapport à la maîtrise du numérique, le codage, et puis en faire des utilisateurs éclairés. Alors, je pense que c'est vraiment indispensable. Je pense qu'on en est très très loin. Et là, si je ramène ça à notre action, nous en tant que Ripper Café, il me semble que mettre les mains dans le cambouis pourrait vraiment permettre de donner une place plus juste au numérique en l'utilisant comme un outil justement, et notamment, par exemple, comme un outil de recherche de solutions de réparation. Mais pour ça, ça peut avoir du sens si on met les mains dans le cambouis et pas seulement si on se contente de regarder de façon passive. Donc c'est là où, pour moi, le Ripper Café qui est vraiment dans l'action, c'est les mains dans le cambouis tout le temps. Et nous pensons que c'est en agissant vraiment de façon aussi concrète qu'on peut faire bouger les choses. Voilà.
Je vais rajouter quelques points, notamment les propositions que porte Halte à l'obsolescence programmée sur ces sujets, pour que vous puissiez aussi réagir les uns les autres. J'avais bien noté qu'il y a déjà une ou deux questions dans la salle. Déjà sur le numérique, il y a cette fable du numérique immatériel. Alors que quand on met un petit peu les mains dans le cambouis, on se rend compte que, par exemple, ce cloud qui donne l'image de nuage, eh bien, est tout sauf immatériel. Que tout ça, c'est des appareils, c'est des serveurs. Chacun de ces appareils a un sac à dos écologique. Par exemple, votre ordinateur de 2 kg nécessite 800 kg de matières premières pour être fabriqué, etc., etc. Et tout ça, c'est des câbles. Du cuivre qui sont sous les océans, partout, dans tous les sens. Et donc, cette fable d'un numérique immatériel, il faut arriver à la défaire pour voir qu'en effet, ça reste des objets. Ça reste des objets qui peuvent être plus ou moins réparés selon comment ils ont été conçus. Et cette éducation au numérique responsable, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour permettre d'allonger la durée de vie de ces objets, qui est la priorité, comme je disais, environnementale. Mais ça passe aussi sans doute par une distance, puisqu'on sait qu'il y a des phénomènes d'addiction aux écrans qui sont très puissants, et qu'il est nécessaire sans doute pour ces phénomènes-là de prémunir les plus jeunes des dangers de ces addictions. Donc par exemple, il y a un collectif dont on fait partie qui s'appelle le collectif Attention, sur comment est-ce qu'on reconquiert notre attention, c'est un bien rare, l'attention humaine, qui porte la proposition d'interdire les smartphones avant 15 ans par exemple. Et il y a de plus en plus, finalement, la plupart des partis politiques sont plutôt d'accord avec ce type de mesure, mais ils ont toujours peur d'apparaître comme anti-progrès, donc finalement, bizarrement d'ailleurs, c'est un peu le RN qui avance le plus sur le sujet, c'est ce qui peut être préoccupant. Donc on a en effet des propositions de ce type sur le numérique. Une proposition que je citais tout à l'heure de Hop, c'est forcément d'intégrer davantage la réparation, mais concrète, sur des objets au collège, au lycée. Et donc il y a des obstacles de sécurité que tu mentionnes, peut-être tu peux revenir dessus, mais on peut aussi se permettre de les contourner, ces obstacles, parce qu'on a investi, par exemple, dans des millions dans les écrans. On pourrait se permettre peut-être d'avoir quelques équipements de sécurité pour favoriser la réparation. Et donc, c'est une compétence quand même qui est peut-être de plus en plus importante dans le monde de demain, où on va manquer de ressources. C'est une mesure importante. Et puis, il y a une autre mesure que je porte à votre connaissance comme ça. Vous allez peut-être pouvoir réagir. C'est que l'éducation, c'est le collège, c'est le lycée, hein, mais c'est aussi après dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Est-ce que les ingénieurs aujourd'hui sont engagés sur la durabilité des objets? Nous, on porte une proposition d'avoir un serment de durabilité. Les médecins, ils ont le serment d'Hippocrate. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un serment de durabilité de tous les ingénieurs, élèves ingénieurs, et on est ici à l'ENSAM, qui, donc, de manière solennelle, signerait ce serment pour dire « Non, dans ma vie, je ne vais pas participer à raccourcir la durée de vie des objets. Non, dans ma vie, je ne vais pas mettre des obstacles à la réparation, etc. » Bon, on peut le décliner sur certains grands sujets comme ça. Est-ce que ça pourrait avoir des effets durables parce qu'il ne faut pas toucher que sur l'obligation. Il y a aussi ce côté peut-être d'engagement qui peut être intéressant dans cette bataille à mener. Donc, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Je ne sais pas par qui commencer. Tu veux peut-être réagir tout de suite, parce que tu as été courte depuis tout à l'heure sur ces questions, à ces propositions. Est-ce que tu as des premières réactions ou est-ce qu'on fait le tour de chacun? Et puis, comme ça, on aura aussi bien le temps. Oui, on va faire ça. Alors, un petit tour de réaction par rapport à ces propositions. Et donc, en commençant par Marie, par exemple, sur... Alors, par Rodrigo, par rapport à ces propositions, est-ce qu'elles vont dans le bon sens et est-ce qu'on a des partenariats? Oui, ben, il reste 50 minutes.
Oui, mais
Et voilà, on aura une demi-heure pour débattre. Par rapport à ces propositions, et comment est-ce que l'école peut mieux tisser des partenariats avec la société?
Tu voulais qu'on réagisse à tes propositions? Bah, en fait, sur ton serment de durabilité, il y a une différence entre les médecins et les ingénieurs. C'est que les médecins, c'est une profession libérale qui peuvent exercer leur éthique. Quand tu es ingénieur et que tu bosses pour Microsoft, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que c'est qui te paye. Donc là c'est un peu compliqué. Et d'une façon générale, en plus, les ingénieurs, mais en fait, toutes celles et ceux qui travaillent, parce que tu cibles beaucoup le numérique et le digital, mais il y a d'autres champs aussi qui rentrent en ligne de compte. Par exemple, les cuisiniers. Par exemple, toutes celles et ceux en fait, qui manipulent d'une certaine façon ou qui produisent des plans pour transformer des matières premières en outils d'usage collectif ou individuel, bref, peu importe. Donc, la question, c'est plutôt comment est-ce que la puissance publique s'organise pour faire en sorte que ce qui est produit réponde en fait, à un système légistique qui respecte l'environnement. Et là, c'est plus compliqué. Parce que, par exemple, là, il y a une commission. Parce que aujourd'hui, le RN travaille là-dessus, oui et non. Oui et non. Il travaille d'abord quand le boulot a déjà été fait avant. Donc il vient comme un coucou se nicher sur un truc. Et ensuite, c'est avec une vision très particulière. Là, tu prends, il y a une commission TikTok, là, à l'Assemblée nationale. Mais TikTok, c'est pas différent qu'Instagram, que Snapchat, que tout ce que t'as. Enfin, c'est... Bah ouais, mais sauf que TikTok, tu vois, c'est la Chine. Telegram, c'est la Russie. L'autre, c'est... Et puis en plus, quand t'as eu des politiques qui ont commencé à réagir sur les réseaux sociaux et les autres qui venaient du groupe Meta, en fait, aux États-Unis. Donald Trump a dit « Ouais, si vous voulez, moi, je peux vous mettre des doigts de Jordan aussi. » Et puis tout le monde a reculé, quoi. Donc, on ne peut pas faire abstraction, en fait, de toutes ces pressions qui existent et qui amènent, d'une certaine façon, à la question que tu poses, comment on s'ouvre à l'extérieur. On s'ouvre à l'extérieur avec des personnes qui sont estampillées par une puissance publique. Et en l'occurrence, en France, là-dessus, ça commence à être compliqué. Ça commence à être compliqué parce que pour s'ouvrir à l'extérieur, les enseignants, en plus de tout ce qu'ils ont à faire, enfin, ils ont une paperasse. Enfin, moi, je fais. Franchement, je réserve tous mes lundis matins des visites de scolaires à l'Assemblée nationale. Et je bosse avec les profs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec les gamins? Qu'est-ce que vous voulez que je transmette? Bah, pour moi, l'Assemblée nationale, c'est un support pédagogique au service des enseignants. Et pour plus, moi, je ne suis pas prof, je laisse ça aux gens sérieux. C'est que le truc, c'est qu'à un moment donné, faire une sortie. Enfin, c'est devenu un truc de dingue, quoi. Donc, et en plus, il y a plein de trucs sur Internet, du coup, vous pouvez aller voir des témoignages de profs, etc., ou d'instituts qui disent ça, comment c'est compliqué de faire une sortie scolaire, prendre les transports au commun, avoir le car, avoir ce... Tu vois, donc, s'ouvrir à l'extérieur, c'est évidemment nécessaire. La question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que la puissance publique ne soit pas un obstacle à des ouvertures qui ne soient pas toxiques pour les enfants. Et ça, on a un vrai sujet. On a un vrai sujet là-dessus. Je dis tout le temps que, et je digresse deux secondes là-dessus, mais la facilité aujourd'hui, c'est d'aller voir la Vénus de Milo sur un iPad ou sur une tablette. Bah ouais, mais sauf que quand vous êtes enseignant d'art plastique
ou juste enseignant d'histoire, et que vous voulez que les élèves aient une émotion en regardant une œuvre d'art, bah ça ne se passe pas sur un écran. Ça se passe au musée. Alors, emmener les gamins au musée. Moi, j'étais en Seine-Saint-Denis. C'est l'impression de partir à Fort Boyard, quoi. Enfin, c'est Koh-Lanta, quoi. Enfin, vous vous rendez compte, c'est ça, aujourd'hui, on a un problème sur l'ouverture. Donc, il y a deux solutions. Soit on fait venir les gens dans l'établissement, soit on fait sortir les gamins. Et dans tout ça, quand je disais que la question des comportements, c'est que la loi agit sur les comportements. Elle dit ce qu'on est autorisé de faire et ce qu'on n'est pas autorisé de faire. Mais le changement de mentalité, c'est un peu plus compliqué. Je me rappelle, pendant le Covid, quand je disais... Enfin, c'était pas moi, c'était la FCP qui disait, je porte parole, donc je disais des trucs, tu vois, mais c'était des parents qui disaient, il faut qu'on fasse la classe dans les forêts quand c'est possible, dans les gymnases quand c'est possible. Attendez, j'avais l'impression que... Et on était en pleine épidémie. Enfin, vous voyez, tu vois ce que je veux dire, c'est... Il n'y a pas un problème de légistique. Il y a un problème de comment est-ce qu'on s'imagine que s'ouvrir, c'est bon pour les mômes, c'est bon pour les enseignants. Et je finirai pour dire que s'ouvrir à l'université, c'est fondamental. Moi, je vois Marie, elle bosse sur l'Isigate, ça depuis longtemps quand même. T'en es pas à ton premier coup d'essai. Si Marie, elle produit pas, dans un cadre académique à l'université, de quoi on parle quand on traite des inégalités? Nous, on n'a rien à dire. Parce que la recherche fondamentale, elle est centrale. Que ce soit dans les matières manuelles, tu parles des ingénieurs, comme dans les matières intellectuelles, les philosophes. Et si on comprend pas que quand on attaque l'université, on est en train d'attaquer les enseignants dont la mission, c'est de transmettre aux élèves précisément ce que produit l'université, ça va être super compliqué. Moi, tout ce que je vous raconte là sur le numérique, c'est parce que j'ai bossé avec un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler. S'il n'avait pas parlé de l'automatisation, de la question de la captation de l'attention, sur la question du pharmacologue, mais j'ai rien à vous dire en vrai. Sauf des trucs de parents d'élèves, de beaufs, qui vont dire « Ah bah moi j'ai mon gamin, j'ai un gamin qui a développé de l'addiction pendant la Covid, mais ça ne m'autorise pas à parler devant vous, dans le cadre dans lequel nous sommes, s'il n'y avait pas eu des personnes universitaires qui décryptent, qui conceptualisent, qui expliquent, et après comment est-ce qu'on se l'approprie ?» Bah aujourd'hui mon boulot c'est de prendre tout ce travail universitaire, en tout cas j'essaye de le faire, et c'est super compliqué, pour le traduire en proposition de loi. Quand je propose de mettre en place une loi pour un congé pour les parents d'élèves en cas de risque climatique, c'est pas parce que tout à coup je veux que les parents décident si leurs gamins doivent être à la maison plutôt qu'à l'école quand il y a une inondation ou une canicule. C'est parce que contrairement à Donald Trump, la recherche fondamentale depuis très longtemps explique que les enfants sont en danger quand il y a une inondation et quand il y a une canicule dans l'établissement. Et qu'en 2000... Il y a quelques années, excusez-moi de la date, je crois que c'est en 2019, il y a des gamins qui ne se sont pas réveillés pendant la sieste dans les Ardennes. C'est ça la réalité. Eh ben ouais, il faut que la loi s'adapte au changement climatique. Mais c'est pas Rodrigo Arenas qui a dit il y a un changement climatique. Non, c'est parce qu'il y a les chercheurs du GIEC qui ont expliqué, et d'autres, qui ont expliqué que oui, c'est pas un truc éthéré, c'est pas un truc qui est réel. Donc voyez, il faut que... Quand on dit l'école ouverte, c'est comment est-ce qu'on fait travailler tout ça ensemble? Moi, je suis député aujourd'hui. Avant, j'étais parent d'élèves. Marie, elle est chercheuse. Toi, t'as une association. Comment est-ce qu'on réussit à se mettre avec vous, tous en tas, pour faire en sorte que les propositions qu'on élabore, qu'on co-élabore, répondent à cette urgence-là? Et aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que l'école n'est pas dessinée, elle n'est pas pensée, elle n'est pas réfléchie, et elle ne se met pas en mouvement en tant qu'institution pour apporter des réponses à l'urgence climatique et sociale dans laquelle nous nous trouvons. Donc nous avons un monde à inventer ensemble. Et ce monde-là, non seulement il est inventé, il est palpable, mais il est déjà en cours de route. Moi, quand j'entends les gamins, et je finis là-dessus, quand j'entends les mômes, notamment les générations nouvelles, elle est où leur place? Elle est où leur place dans un conseil d'école? Elle est où leur place dans un conseil d'administration dans les établissements? Eh ben, on les écoute seulement quand ils sont d'accord avec les adultes. Eh ben, ça ne peut plus durer comme ça. Il y a un enjeu démocratique. Si on ne comprend pas que l'école est le lieu de l'expression et de la formation à la démocratie, alors le RN va gagner. Et c'est ça le sujet de fond. C'est qu'un État autoritaire avec un enseignant qui est maître dans sa classe, c'est la norme, c'est la fonction. Aujourd'hui, les enseignants ne sont plus dans cette posture-là parce qu'ils résistent. Mais si on ne travaille pas ensemble, à la fin, ils seront tout seuls. Et quand ils seront tout seuls, ça va être un peu compliqué pour tout le monde, et en particulier pour les nouvelles générations, qui seront amenées à prendre le pouvoir après nous. C'est leur destin, on leur souhaite.
Aujourd'hui, bravo. Aujourd'hui, on est le samedi 11 octobre, et c'est aussi une journée de mouvement, de mobilisation pour... le monde associatif qui souffre de manière un peu insidieuse, voilà, beaucoup de baisses d'aide, d'emplois aidés, de postes en insertion, etc. Voilà, on a beaucoup d'exemples, je pense, chacun en a autour de lui. Et donc là, on est en train de dire, il faut sortir de l'école, il faut sortir déjà, que l'école sorte de ses habitudes, peut-être en faire un projet de société différent qui doit être reconnecté au monde associatif. Et donc là, je me tourne vers toi, Martine, et tu as le droit aussi de réagir à ma question d'avant sur des propositions. C'est comment est-ce qu'on fait en pratique pour que ce soit plus facile pour une école et pour tous ces jeunes de voir les alternatives, d'y avoir accès. Parce que c'est aussi une question d'infrastructure locale. S'il n'y a pas... ou faire la visite, eh bien, on ne la fera pas. Donc, et tout le monde ne va pas aller à l'Assemblée nationale. Je pense que Rodrigo n'a pas la possibilité d'accueillir toutes les classes de France. Ah, bon. Donc, Martine, je te laisse réagir par rapport à ce sujet d'ouvrir concrètement l'école avec des associations qui deviennent des éducateurs aussi partenaires de l'école.
Oui, ben, ce que tu viens de reprendre et ce que je résumerais, moi, de ce que vient de dire Rodrigo, c'est que tout simplement pour moi, aujourd'hui, on n'a pas de projet de société en France et ça se traduit notamment au travers de l'école et au travers des ravages qui s'exercent de diverses manières. Donc moi, un projet concret, là, sur Mâcon, qui pourrait être un lieu d'accueil, un lieu de vie, qui permettrait de faire sortir l'école, les enfants de l'école, et de se réapproprier justement les objets. Donc c'est un projet qui démarre sur Mâcon, avec toutes les difficultés que ça va générer. L'idée, ce serait de regrouper aujourd'hui 4-5 associations. Une matériothèque qui a déjà vu le jour qui est créée sur Mâcon, qui s'appelle Mâcon Demain d'abord, qui entrepose aujourd'hui à Bergesserin en partie, qui est à côté de Cluny, et une autre partie sur Mâcon. L'outil en main, c'est une association nationale qui accueille les enfants à partir de 9 ans. Un adulte, deux enfants. L'idée, les adultes sont des artisans, souvent des artisans à la retraite ou des bricoleurs chevronnés, et qui font découvrir les métiers de l'artisanat avec l'outillage adapté et qui font fabriquer aux enfants. Où on travaille, on apprend à tapisser une chaise, on apprend à souder, on apprend à monter des choses en électricité, on apprend le bois, on apprend, j'ai plus tout en tête, énormément de corps de métier qui sont proposés aux enfants, un adulte pour deux enfants. Ça se passe le mercredi après-midi, c'est une association nationale. Il y a un outil en main qui fonctionne très bien à Guérin, dans l'Ain, pas très loin d'ici. Ça regrouperait également une association mâconnaise qui s'appelle Mâcon Vélo en Ville, qui est une association réparation participative. Ça regrouperait bien sûr leur Hyper Café, avec le projet de créer, dans le cadre du Hyper Café, un Hyper Kid, comme j'expliquais tout à l'heure, qui permettrait d'accueillir pendant les temps scolaires, mais sur un lieu adapté, de créer une bricothèque pour permettre également aux citoyens qui n'ont pas l'équipement chez eux, parce que c'est aussi l'idée de mutualiser les outils, hein, parce que on a tous des outils qu'on utilise deux fois dans l'année. Une bricothèque permettrait de mutualiser l'outillage et d'avoir des lieux avec des établis qui permettraient de réaliser in situ et de répondre aux besoins des habitants qui vivent en appartement, qui n'ont pas les outils, etc., etc. Et une outil tech qui permettrait également de louer à petit prix des objets dont on a besoin et qui coûtent cher. Et dernière association, une antenne de la ressource souris avec un atelier d'aérogommage qui permettrait de redonner une seconde vie à un certain nombre de mobiliers qu'on n'arrive plus à vendre, voilà. Et qui permettrait également de nettoyer aussi les matériaux stockés dans la matériothèque, parce que matériothèque, ça n'est pas que du matériau brut, mais c'est aussi des huisseries, c'est aussi des radiateurs, des choses comme ça, et ça permettrait de décaper tout ça de façon à ce qu'il soit plus facilement réinjectable dans des projets de construction. Voilà, donc aujourd'hui, c'est, on va dire, notre rêve. Les cinq associations nommées sont en train de travailler ensemble, de construire ce projet. Et là, c'est là où on rencontre des nœuds, hein, forcément. Et c'est en fait le pouvoir de nuisance de toutes les structures auxquelles on doit, avec lesquelles on doit travailler, et qui bloquent en fait souvent nos possibilités d'avancer. Parce qu'ils entendent et ils comprennent nos discours, ils entendent et ils comprennent nos arguments, nos arguments par rapport à l'environnement, par rapport aux enjeux sociétaux et d'éducation, ils les comprennent, ils sont d'accord, mais tout est verrouillé, il y a toujours des freins qui empêchent d'avancer, de concrétiser pour des raisons, multiples raisons, l'instabilité de la politique... l'électorat, ça correspondra pas à l'électorat, il y aura pas de rentabilité économique, etc., etc. Donc, on se retrouve face à cette réalité, malheureusement. Mais quand on est dans l'associatif, on y croit. Donc on y croit. On avance. Voilà, on essaye. Mais bon, le Ripper Café. Petite pub pour le Ripper Café, qui n'a que 5 ans, aujourd'hui à 97 bénévoles. Voilà. Et on touche chaque année entre 800 et 900 personnes qui viennent au moins une fois au Ripper Café dans l'année. Donc voilà, ça nous fait plaisir, vraiment plaisir. Et pour répondre... une petite anecdote concernant ton serment de durabilité pour les futurs ingénieurs. Alors, je pense qu'on en est très loin. Hein. Mais j'ai une petite anecdote. Un jour, lors d'une session de Ripper Café, j'ai un couple qui nous a rendu visite. Et la femme était une ex-ingénieure qui a quitté sa boîte parce que elle, son job, c'était de programmer l'obsolescence. Elle en était... Elle l'a fait, un peu, mais voilà. Donc, elle s'est complètement réorientée. Moi, ce jour-là, j'ai... Ensuite, éloigner les écrans des écoles, mais je suis tellement, tellement convaincue que c'est une mesure sanitaire, en fait, vraiment. Et puis, développer les Ripper Cafés, on s'y emploie. Et intégrer les cours de réparation au collège et au lycée, bien l'expérience du Ripper Collège montre que c'est un premier pas. Mais là, c'est aussi à l'Éducation nationale de faire une part du chemin également dans les financements, comme tu disais, et puis par rapport aussi à un vrai projet de société pour nos enfants et pour les futurs citoyens de demain. Voilà. Bon, moi, je crois que j'ai tout dit, là.
Bah, c'est super. Et puis, on va laisser Marie aussi conclure sur... Voilà, doit-on sortir de l'école en conclusion, Marie Durubella?
Bah, moi, j'avais retenu plutôt ouvrir l'école. Alors, bon, je vais botter un petit peu en touche. Enfin, je suis complètement convaincue qu'il faut donner plus de poids à l'intelligence de la main. Ça, c'est clair. Mais je pense qu'il faut aussi... ouvrir les clivages disciplinaires à l'école. Quand on s'intéresse à l'écologie, à l'environnement, il y a vraiment des problèmes pour penser les questions. Alors, on reste dans le domaine des matières académiques, mais il faut aussi ouvrir les matières académiques. On parle quand même un peu plus d'environnement, mais souvent, c'est limité au cours de SVT. Alors qu'il est facile de montrer que les questions d'environnement ont des conséquences géopolitiques extrêmement importantes. Il y a eu des guerres de l'eau, puis il y a plein d'exemples comme ça. Donc si les profs de SVT pouvaient travailler avec des profs d'histoire géo, hein, déjà, on pourrait ouvrir cette dimension géopolitique des questions d'environnement. On pourrait aussi tenir compte de l'évolution historique, faire réfléchir les élèves sur qui a accumulé au fil du siècle dernier l'émission de gaz à effet de serre, qui l'a accumulé, qui en pâtit aujourd'hui. Hein, donc avec l'histoire montre ça très bien et fait apparaître des responsabilités. Et c'est la même chose au niveau des pays, au niveau d'un pays, qui émet, qui pâtit. Et là, le prof de philo ou le prof de sciences éco et sociales peuvent également intervenir. Le prof de sciences éco et sociales, c'est assez facile. On a un modèle où on se prétend en Europe se réserver, c'est l'économie dite de la connaissance, les autres sont trop bêtes, ils vont fabriquer nos chaussettes. C'est le modèle qu'on a choisi. On va faire fabriquer nos chaussettes pas chères en Chine, puis nous, on va essayer. On voit que ça marche pas, d'ailleurs. Et il y a des coûts pour tout le monde. Il y a des coûts dans les pays qui fabriquent des chaussettes, où y a la main-d'œuvre est complètement exploitée. Et chez nous, on délocalise les usines, et il y a aussi des coûts. Donc, le prof de sciences éco peut également, bien sûr, participer à ça. Puis le prof de philo, les enfants sont très sensibles aux questions de justice. Un enfant comprend très bien que si on n'admet pas dans notre pays de laisser un enfant mourir de faim, s'il est de l'autre côté de la frontière, ça n'a pas d'importance. Donc on voit bien que cette question de justice internationale, qui sont très liées aux questions d'environnement, mais qui la débordent, pourrait être très bien abordée, y compris par des jeunes enfants, parce que je pense qu'ils sont sensibles. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de parler de ces questions avec des gens, des élèves du secondaire, et ça passe très très bien. Donc ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il faut aussi qu'on réfléchisse, au-delà de cette ouverture absolument nécessaire, auquel je crois complètement, à d'autres types de savoirs et de valeurs, il faut aussi qu'on fasse le ménage dans nos propres formations académiques, pour essayer de les ouvrir, pour qu'on prenne en compte complètement, de façon beaucoup plus ouverte, les questions d'environnement.
Merci pour cette belle conclusion. On a plusieurs questions et on a une demi-heure, donc ça va. Alors, on va en prendre par salve de 3, par exemple, si ça vous va. Donc, on va commencer par vous. Après, il y a...
Moi, j'avais plusieurs remarques. J'ai l'impression, en vous écoutant, que... Quelle connaissance vous avez de l'histoire de l'éducation à l'environnement en France ? Parce que de l'histoire de l'éducation à l'environnement en France, parce qu'il y a eu beaucoup de choses faites dans ce domaine-là, en particulier sur l'éducation au développement durable au niveau ministère de l'Éducation nationale, qui est toujours dans le concept de développement durable de croissance verte, et pas dans la transition. Donc ça, c'est le premier point. Vous parliez des disciplines académiques, mais les universités françaises sont éminemment disciplinaire. Moi, quand je prends des étudiants master sciences de l'éducation et master sciences de l'environnement, pendant 6 mois, les deux étudiants, ils s'engueulent en disant « c'est mon prof qui a raison ». Enfin, bref, il n'y a pas de master de sciences de l'éducation et l'environnement en France, alors que ça existe en Australie, au Québec, depuis 25 ans. Donc, il n'y a pas d'interdisciplinarité qui permettrait de faire un lien là-dessus. Et puis sur ce volet-là, je connais très bien ce qui se passe sur la région lyonnaise en éducation environnement. Ça fait 10 ans qu'il y a des associations qui travaillent sur la réparation de smartphones dans les collèges. Plein de choses, d'initiatives qui sont faites. Et en France, c'est la question aux députés, il y avait un espace français de concertation de l'éducation environnement qui a été supprimé, qui permettait de réunir toutes les organisations nationales qui s'intéressaient à ces sujets-là, quand est-ce qu'on le remet ? Alors c'est vrai que ça dépend de quel gouvernement on aurait, mais quand même, c'est des questions de fond, quoi. C'est vraiment des questions. Et j'invite aussi, puisque vous parliez du mouvement associatif, l'Institut français du monde associatif vient de sortir avec une trentaine de chercheurs un rapport sur la transition écologique, et la souffrance des associations, entre autres, avec ce qui s'appelle le livre blanc de l'Institut français du monde associatif. Je pense que ces travaux de recherche pour valoriser l'initiative d'association mentale mériterait d'être plus connus. Voilà, donc il y a des questions un peu pour chacun d'entre vous. Et je ne parle pas des guides sur la consommation responsable. À Lyon, on est aux 3e édition. Avec The Green and Good sur les guides de la consommation responsable avec plus de 800 adresses.
Oui, bonsoir. Alors moi, j'apporte aussi un témoignage dissonant par rapport à la dévalorisation des métiers de manuel, puisque je vois autant dans le milieu rural que dans les plus, enfin, toutes les classes populaires ou favorisées, qu'il y a au contraire une grande valorisation en France de ces... Enfin, aujourd'hui, le plombier, le charpentier, le boulanger, pâtissier, enfin, je peux en nommer encore plein comme ça, le réparateur de vélos sont très, très, très valorisés. Moi, c'est ce que je vois au quotidien. Il y a eu un retournement complet. J'ai l'impression d'un discours, en fait, qui ne colle pas. Moi, ce que je vois vraiment au quotidien, je me balade vraiment beaucoup dans les... Enfin, je n'ai pas de limitation de géographique, ni de social, ni quoi que ce soit. Je n'entends plus du tout. Ah, celui-là, il est bête, il s'utilise ses mains. Il ne s'est utilisé que ses mains. Je ne vous comprends pas du tout. Voilà. Désolé. Donc, Et ensuite, pour revenir à la question de la maintenance, de la réparation, du bricolage, parce que quand on bricole, on répare. Je pense que. Oui, là, le problème, c'est justement de ne pas faire son pas refaire son smartphone, parce que ça peut se faire assez facilement si on apprend, ou justement trop d'acheter Ikea, etc., qui ça se répare pas, etc., des choses comme ça. Là, oui, là, il y a beaucoup à faire, mais c'est vrai qu'on est passé d'une société... alors, autant on valorise le patrimoine, justement, par le boulanger, etc. Malheureusement, on est dans une société de service où le paysan et l'ouvrier sont moins nombreux maintenant. Donc, c'était eux, les manuels, c'est eux qui réparaient. Donc là, on est dans une société de service. Et oui, effectivement, le bricolage ou la réparation, il y a à réintroduire ça, oui, c'est vrai.
Merci. Peut-être une dernière avant de vous laisser la lourde tâche de commencer à répondre. Mais je sais qu'il y avait d'autres questions. On aura le temps de faire deux salves. Hein.
Oui, bonjour. Merci pour vos interventions. Je vais essayer d'être brève dans ma question. Il me semble qu'il y a un prisme que vous n'avez pas abordé dans cette question de rapport entre école, enfant, objet. C'est le prisme du genre. Or, le rapport aux objets, il n'est pas du tout neutre de ce point de vue-là. On voit encore des magasins de jouets... qui sont roses pour les filles, bleues pour les garçons. Et puis, il me semble que dans la situation actuelle donc d'apprentissage, de réparation des objets, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'il n'y ait pas de biais de genre dans ces activités? Et puis, notamment, également, pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'infériorité de la part des filles, et notamment dans le domaine du numérique, puisqu'il y a aussi des questions de pouvoir qui sont en jeu.
Merci beaucoup. Vous faites une première réponse, comme vous pouvez, à ces questions nombreuses et complexes.
Non, si on essaie d'être bref, là, il me donne le bébé, là. Oui, non, mais c'est vrai qu'il... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui font plein de choses et on est peut-être apparu relativement pessimiste, mais on raisonne sur les enquêtes qui portent sur le quotidien des classes. Donc c'est vrai qu'il y a des endroits où ces travaux pluridisciplinaires sont conduits, mais dans la majorité des cas, allez voir dans les lycées, quand on a confié des travaux pluridisciplinaires, il y a eu plein de réformes là-dessus, ça a toujours... capoter en très très peu de temps. Donc je pense que les enseignants sont quand même pas très prêts, ils ne sont pas sur deux pour dépasser un peu leurs frontières disciplinaires. Alors sur la remarque que dans certains contextes les artisans sont plus valorisés, sans doute, mais il y a aussi les ouvriers. Et je pense qu'il y a quand même une grosse différence entre le statut de l'artisan qui est à son compte et qu'on voit travailler, et de l'ouvrier dans une usine. On ne sait pas ce qui s'y fait, mais on sait que c'est sale et que c'est pas bien. Et donc je pense que même si les jeunes peuvent, et on l'a vu, il y a des jeunes diplômés récemment qui se sont distingués pour dire on veut devenir artisan, ils ne sont pas repartis en usine. Mais ça, c'est lié aux conditions de travail aussi dans les usines. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'école qu'on va décréter que c'est bien d'être ouvrier. Il faut aussi, la balle, elle est dans le camp des conditions de travail aussi dans les usines, de présentation, parce que beaucoup d'ouvriers en usine font un travail finalement assez intellectuel d'ailleurs, de lecture de cadrans et de machines. Mais c'est aussi l'évolution des conditions de travail dans les usines qui sont en cause. Bon, quant au genre, on pourrait en parler pendant des heures, effectivement, qu'il y a des biais de genre par rapport aux travaux manuels, mais il y en a aussi par rapport à la lecture, cette fois c'est les garçons qui ont des problèmes, par rapport aux sciences, et là c'est les filles. Donc il y a des biais de genre effectivement partout, et à part invoquer au moins dans un premier temps, la vigilance des formateurs. On peut pas tellement, on peut aussi lutter sur la publicité, sur le caractère sexuel des jouets, etc. Mais il n'y a pas de recette magique. Il faut que les enseignants fassent attention quand il y a des tandems d'élèves, par exemple, parce que ça a déjà été vu quand on a introduit les microscopes dans les classes, où c'était les garçons qui prenaient le microscope et les filles qui regardaient gentiment. Donc là, c'est vraiment un travail de sensibilisation pédagogique et de vigilance de tous les instants, pour que ça ne soit pas monopolisé par les garçons. Mais je pense qu'on peut y arriver. Alors, une autre manière de le faire, mais elle est un peu, à mon avis, dangereuse, ce serait de valoriser les travaux manuels actuellement féminins. Hein, il y a aussi des expériences pour faire tricoter des garçons, pour leur montrer que ce n'est pas plus stupide de faire de la broderie que de faire un tabouret. Hein, donc, ça pourrait être aussi une autre façon. Mais bon, j'ai bien conscience qu'on n'a pas le temps vraiment de répondre à toute cette question. Tu veux ajouter un truc ? Non, ça va ?
Tu veux que j'enchaîne ? D'abord, je voudrais pas qu'on parte d'ici en pensant que Marie, moi, Martine, on soit pessimiste. Au contraire, le fait qu'on soit là, c'est qu'on est extrêmement confiant et optimiste sur l'avenir. Sinon, on se met sur Netflix et puis on passe à autre chose. Vous voyez, c'est pas le cas. Et il y a plein de choses qui existent à l'échelle internationale. Par exemple, sur la question de genre dont vous parliez, madame, l'UNESCO vient de primer un bâtiment qui paraîtrait peut-être anodin, à Mexico City, dont Clara Brugra, qui est l'actuelle maire de Mexico. Alors, c'était une petite ville où elle était avant maire, c'est une petite ville de 2 millions d'habitants. Je mets l'échelle. On est à Mexico City, c'est notre échelle. Par exemple, c'est un endroit dans des quartiers qui... On pourrait imaginer toutes les représentations qu'on peut avoir sur le 93, la Seine-Saint-Denis, tous ces coins où il y a des problèmes de trafic, des problèmes de pauvreté, et aussi plein de gens qui vont bosser tous les matins, etc. etc. Et donc, elle a mis dans un endroit plein d'expériences internationales qui fonctionnent. Par exemple, elle a mis un téléphérique comme à Medellín, qui permet justement aux personnes les plus pauvres, qui sont dans les hauteurs, de pouvoir rejoindre le métro, qui est plutôt dans la plaine, et éviter de prendre des voitures ou des transports en commun qui sont extrêmement... néfaste pour l'environnement, mais qui en plus, c'est cher une voiture, ça coûte cher. C'est pas juste avoir la voiture, faut mettre l'essence, faut l'entretenir, c'est compliqué. Donc elle a mis ça en place et en plus elle a fait en sorte que tous les toits que voit le téléphérique, elle a donné des subventions avec de la peinture pour que les habitants, propriétaires en l'occurrence, c'était des anciens bidonvilles dont on est en train de parler, qui sont devenus petit à petit des maisons, les toits soient peints. Et donc vous avez soit de la peinture toute basique, soit des œuvres d'art qui ont été mises en place. Donc c'est vraiment un vrai trajet touristique qui se met en place. C'est des gens, c'est manuel là, mais c'est valorisé pour le coup. Et puis dans les lieux qui s'appellent les Utopias, qui viennent d'être primés par l'UNESCO, il y a à la fois des complexes sportifs, des complexes culturels, et aussi des endroits dans lesquels on lutte contre les déterminismes de genre qui sont pas évidents. Par exemple, de permettre à un homme d'apprendre à allaiter, d'apprendre à repasser. Enfin, pas d'allaiter, de faire le geste, en jouant avec des poupées. Vous voyez, pour qu'ils se mettent en situation. D'apprendre, en fait, qu'on tape pas une femme parce qu'elle est femme et parce qu'il n'y avait pas la cuisine quand on rentre du travail. De faire, vous voyez, toutes ces choses qui sont prédestinées, bah, c'est pas seulement avec les enfants qu'on doit le faire, c'est aussi avec les adultes. Et donc, il s'avère que tout ça, en France, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on pense, comme disait Marie tout à l'heure, que l'école doit tout apprendre. Comme si ce qui se fait à l'extérieur n'avait pas de place. Là, vous avez une institution qui est municipale, qui est entièrement gratuite, c'est-à-dire qu'elle est prise en charge par la puissance publique, et qui permet justement d'agir de façon concrète sur les déterminismes sociaux, là, le genre, mais pas seulement, de faire avancer dans un temps plus rapide une société qui, si elle passait par les chemins traditionnels ou institutionnels, aurait bien du mal à changer. Tout ce que je vous raconte là, c'est sur Internet, c'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller voir des vidéos, il y a plein de choses. Il y a des bibliothèques pour les enfants dans des anciens avions qui sont recyclés, qui deviennent aussi des lieux de jeu, des bibliothèques gratuites aussi. Vous avez des piscines, des patinoires, enfin, vous avez tout un réseau d'utopias qui sont mises en place à Mexico. Il va y en avoir 100 très certainement à la fin de son mandat, qui permettront justement de lutter contre ça, parce qu'à l'école, bah, en fait, ça se fait pas vraiment. Et là, on a un sujet. On a un sujet en France sur le fait que est-ce que tout ce dont on parle doit être universel ou pas ? Par exemple, est-ce que les enfants en France ont le droit à l'alimentation de façon universelle ? La réponse est non, puisque la cantine est payante. Moi, je suis député parisien. Il y a une campagne de publicité dans la ville de Paris où on met 13 cents, c'est-à-dire un franc. Eh bien, c'est formidable. En quoi est-ce qu'un franc, c'est formidable pour faire accéder un enfant pauvre à l'alimentation ? C'est des représentations.
c'est de la question de la dignité. C'est la question d'être heureux de participer. Vous voyez, c'est des représentations qui sont assez datées, qui sont très ancrées d'ailleurs intellectuellement là-dessus. Et par contre, quand on est malade, on ne se pose pas de la question est-ce que la santé est gratuite ou pas en France. Si on met avant les mutuelles, avant la marchandisation de la santé, quelqu'un en France qui était malade, il allait à l'hôpital, il était pris en charge intégralement par la sécurité sociale. C'est-à-dire que sur la santé, on est capable de s'organiser pour se dire que c'est un accès universel. En revanche, pour l'accès à l'alimentation, qui est un droit indispensable d'un enfant, on met un péage d'entrée à la cantine scolaire. Vous voyez, toutes ces actions-là font que ce n'est pas un problème vraiment technique, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème d'imaginaire et de constituer des majorités. Je finis juste sur l'exemple de la voiture, parce qu'on parle d'obsolescence. Aujourd'hui, l'alpha et l'oméga, c'est la voiture électrique. Est-ce qu'on peut dire qu'une voiture électrique, ça fait des écocides quand on va chercher le lithium dans le désert d'Atacama ou dans les mines australiennes ? Est-ce qu'on peut dire que la voiture, au-delà du moteur, c'est de l'exploitation et de l'extractivisme, comme tu disais pour l'ordinateur, pour avoir une voiture avec des matériaux qui ne sont pas neutres d'un point de vue environnemental ? Est-ce qu'on peut dire que pour recharger les voitures, il va falloir mettre tout un réseau de cuivre pour pouvoir les charger et que ça, c'est compliqué parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde ? Et est-ce qu'on peut dire que si on a cet imaginaire ensemble que toutes les voitures techniques thermiques partout dans le monde vont être remplacées par des voitures électriques, on ne pourra pas le faire parce qu'il n'y a pas les ressources et qu'en plus, ce n'est pas souhaitable. Vous voyez, tout ça, c'est un peu compliqué, ça ne répond pas à toutes vos questions parce qu'il n'y a pas de réponse à apporter, c'est des sujets de discussion parce qu'on n'a pas forcément les réponses à ça. Moi, je crois en l'intelligence collective, mais pas en mode on se met ensemble et puis on va sortir le plus petit dénominateur commun. Non, c'est quand on va à l'école, quand on travaille ensemble, quel système de valeurs on défend, quelle vision de la société on a, quelle vision de l'avenir on veut partager. Et là, il va falloir qu'on se mette en tas tous ensemble. Parce que sinon, encore une fois, ça va être très compliqué. Par exemple, quand vous allez dans le désert d'Atacama et que vous avez des enfants qui travaillent dans les mines pour que vous rouliez en électrique.
Merci Rodrigo, ça répond aux questions et même à celles qui n'ont pas été posées, donc bravo. Martine, une réaction ou pas forcément ? On laisse la parole au...
C'était un petit peu sur le genre, mais c'est tout petit, c'est juste un retour d'expérience associatif. Encore une fois, justement, j'ai évoqué tout à l'heure les associations L'Outil en Main, le Repair Kid et puis les Repair Collèges en dehors du temps scolaire. Eh bien, ils sont absolument mixtes. Les filles sont extrêmement intéressées et participatives. Et voilà, donc j'ai envie de dire, si ce type d'initiative s'essaime, les filles seront de plus en plus, auront de plus en plus de possibilités pour s'intéresser et pratiquer la réparation. Deux petites choses pour terminer, c'est tout petit, hein, tout petit. Au Repair Café sur... je ne sais plus, on est entre 65 et 70 réparateurs. Il y a 4 femmes réparatrices, si je ne compte pas les couturières, parce qu'on a aussi 5 couturières. Et pour terminer, les femmes s'intéressent énormément à la réparation. Alors, nous avons une page Facebook. On pense ce qu'on veut de tout ça. Mais cette page Facebook est énormément suivie. On a 1700 followers, ça se dit comme ça aujourd'hui. Sur ces 1700 followers, il y a 75% de femmes qui nous suivent. Et dans les personnes qui viennent en présentiel au Repair Café pour faire réparer leur objet, on est autour de 65% de femmes également. Donc la femme, quand même, je pense, est porteuse d'un message par rapport à la réparation. Elle est aussi la gardienne du foyer parce que la réparation, c'est aussi faire des économies.
Oui, moi j'étais. Je voulais rebondir sur un sentiment de ras-le-bol que tu as pu exprimer, Rodrigo, par rapport au fonctionnement de l'école comme outil de reproduction des inégalités sociales. On sait bien que l'école, depuis toujours, survalorise des savoirs qui sont ceux des classes dominantes. Et l'école a été construite comme ça. Moi, ce que je vois de plus en plus, en fait, dans la société, c'est un ras-le-bol complet par rapport à ce fonctionnement, par rapport à un sentiment d'humiliation des classes populaires qui est ressenti de manière de plus en plus aiguë, en fait. À mon avis, ça s'accompagne d'une tendance à un approfondissement démocratique qui met la dignité au centre en fait, de notre idéal. On l'a vu à travers le mouvement des Gilets jaunes de manière très claire. Et en fait, c'est le premier contact qu'ont les citoyens avec les institutions. Et parfois, le principal, c'est l'école. Moi, j'ai suivi beaucoup de jeunes délinquants. Hein. J'étais juge des enfants. À chaque fois, on a ce vécu d'humiliation à l'école qui est au centre de la discrimination qui est vécue. Et les gens doivent se construire avec de la dignité. Et il faut absolument que l'école réoriente sa manière de fonctionner par rapport à ça. Et une manière de valoriser les travaux manuels, c'est indispensable à ce niveau-là. Il faut vraiment réussir à réorienter l'école. Et au-delà de cette valorisation des métiers manuels, on doit également repenser l'école en cherchant à donner de la dignité à chacun. Redonner de la dignité à chacun et ne pas véhiculer ce sentiment d'humiliation qui, à mon avis, devient de plus en plus insupportable. C'est ce que tu disais, tu ressens effectivement ce ras-le-bol. Et on a un fonctionnement aussi de l'école française qui est extrêmement élitiste, qui ne fait que classer, que sélectionner par rapport à des critères qui sont ceux des classes dominantes. Et je pense qu'il y a vraiment... l'institution doit se refonder en profondeur. Hein. On n'est vraiment pas sur des mesures cosmétiques. C'est l'ensemble de l'institution qui doit se réinventer à ce niveau-là, à mon avis.
Merci, merci. Une autre question.
Alors, moi, ce ne serait pas une question. C'est par rapport à tout ce que vous avez dit. Et merci pour vos expressions. Je revenais sur Matthew Crawford. Et je trouve que c'est pas mal de rappeler ce qu'il met dans son bouquin... c'est parce qu'il a des mains que l'homme est le plus intelligent des animaux. Ça, c'est Anaxagore qui le dit. Et plus tard, Aristote qui écrit, c'est parce qu'il est le plus intelligent qu'il a des mains. Donc, je trouve que, franchement, c'est Matthew Crawford qui a voulu recoller le savoir et le faire. Je trouve que c'est bien. Sinon, rapidement, deux choses. Il y a un film qui est sorti il y a 2 ans d'Adrien Bellay. Je crois que c'est 2 ans à peu près, qui s'appelle Low-Tech. Qui parle de la réparation. Et au départ, Adrien Bellay, justement, son imprimante ne fonctionne plus. Il appelle et quelqu'un lui dit au téléphone, ah, vous avez plus de 2 ans ou 3 ans, c'est plus possible, on vous fait une réduction, mais il faut acheter une machine. Bah, il a dit non, sinon ça va recommencer tous les 3 ans. Il va chez réparer, peut-être chez un repair café. Et de là, il a l'idée d'aller voir plein de gens qui réparent plein de choses ou qui fabriquent des choses eux-mêmes en équipe ou tout ça avec les agriculteurs et tout. Ce film est excellent, je pense qu'on peut le trouver facilement. Et la dernière chose, c'est un film de Michel Leclerc qui s'appelait Pingouin et Goéland, qui présente une autre méthode éducative qui s'est faite à la barbe du maréchal Pétain, donc dans les années de guerre, etc., où c'est un couple d'enseignants qui accueillait des enfants de juifs ou tout, des enfants de parents maltraités. Et qui est inspiré d'une autre méthode éducative où les enfants sortent des murs, où il y a des projets éducatifs avec des ateliers où ils peuvent construire en début d'année. C'est extraordinaire, c'était jusqu'à la 3e et ça a amené les enfants vers le haut. Donc voilà, c'était juste ça, merci. Le nom du film ? Pingouin et Goéland de Michel Leclerc.
Donc il reste 5 minutes, on a des questions sur inégalité, dignité, pingouin, goéland... Low-tech, l'intelligence de la main et l'intelligence d'avoir des mains. Je vous laisse 2 minutes de conclusion à chacun en réponse à ces questions, si ça vous convient. Martine.
Un retour d'expérience sur redonner de la dignité. Quand j'étais enseignante, j'étais en ZEP. Et j'avais la chance d'avoir un poste ZEP, c'est-à-dire un poste supplémentaire où je montais des projets avec les enfants. Et notamment, mais jamais s'en sortir, les enfants dits en difficulté ou les enfants problématiques de la classe. L'idée, c'était de monter des projets qui leur permettaient d'être valorisés au sein de la classe et de se construire, une dignité. Et notamment dans ces projets, et j'y reviens, il y avait des projets... un des axes des projets que je menais était des projets scientifiques et technologiques, justement. Voilà. Sinon, il y a aussi eu projet théâtre où ces enfants-là étaient également particulièrement doués et pouvaient briller auprès de leurs camarades et auprès de l'ensemble de l'école, en dehors de tous les savoirs académiques.
Oui, je voudrais rappeler, ce n'est pas une réponse vraiment à la question, qui sont les hommes politiques? Si on regarde la composition de l'Assemblée nationale, c'est des gens des grandes écoles. Ils ont un diplôme du supérieur. Et ils sont à cette position parce qu'ils pensent qu'ils le méritent. C'est-à-dire que ce que l'école inculque, c'est vous réussissez bien parce que vous le méritez, parce que vous le valez bien. Et donc, c'est bien la définition du mérite qu'il faut mettre en cause. Hein. Les gens, ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Et ceux qui sont les moins bons, ils voient bien le mépris. Donc, le mépris, ça prend à l'école. Et après, on va le retrouver dans la vie. Et ceux que ça intéresse, lisez, je ne sais pas de la pub, enfin, c'est un ami, le bouquin sur le mépris de François Dubé. C'est un petit livre de 120 pages qui reprend tout ça. Hein. Le mépris, il s'apprend à l'école et on le retrouve effectivement au rond-point. Voilà.
Alors, je ne conclue pas, Marie. Ce n'est pas parce que je fais de la politique que je conclue. Au contraire, hein. Parce que je faisais des trucs avant quand même. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Dans le sens où... c'est vrai que la grande majorité des députés, sociologiquement, ils viennent de ce que tu dis, Marie, c'est une réalité, mais c'est pas que ça. Par contre, en revanche, ceux qui viennent pas de ça, ils subissent le mépris et l'humiliation. On est en rencontre de Clini. Alors, c'est fou parce que elle a pas fait que ça à l'Assemblée nationale et en tant que ministre non plus, mais des fois, moi, je parle de Cécile Dufaux à l'Assemblée nationale. Et ce qu'on retient, c'est sa robe à fleurs.
Oui.
Alors, ça dit des choses en plus parce qu'elle a fait plein de trucs, mais on retient ça. C'est-à-dire qu'au moment... au moment historique dans lequel elle est discriminée, violentée, parce que femme, eh ben, c'est ce qui reste quand je fais les visites de MOOM, même des MOOM, les enseignants s'en rappellent. Donc après, il y a d'autres choses. Moi, par exemple, je vais souvent en basket à l'Assemblée, même dans l'hémicycle, pour un truc con, c'est que je m'étais cassé le pied en faisant un footing avec mon gamin, donc je ne supportais plus les chaussures, et on ne m'a jamais rien dit parce que je mettais des baskets avec... avec mon costume, en fait. Parce qu'on est obligé de mettre une veste, les garçons. Les femmes s'habillent comme elles veulent, sauf Cécile Duflot. Mais par contre, les garçons sont obligés de mettre une veste. Vous voyez, c'est entre la règle et la mentalité, il y a un truc. Et par contre, quand c'est quoi que vous pensiez de lui, Louis Boyard, qui met des baskets, là, parce que jeune, alors lui, il s'en prend plein la gueule. Quand vous avez Rachel Keke, femme de ménage, revendiquée, qui prend la parole, elle est victime de Quolibet et en plus elle est moquée par son accent. Quand vous avez, je parle parce que je suis dans ce groupe-là, donc j'en ai pour les autres aussi, hein, si vous souhaitez. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas ciblé sur un groupe, c'est de façon générale. Il y a que quand vous ne répondez pas à ce que tu dis, il y a que quand tu n'as pas la représentation de la réussite sociale et scolaire, alors ouais, même à l'Assemblée nationale, en fait, on a ça. Donc il y a des choses sur lesquelles on va devoir travailler. Mais pourquoi j'ai que ça se travaille avant? Par exemple, il y a très peu de chefs d'établissement qui font passer dans les classes, parce que c'est fondamentalement des femmes qui font le ménage dans les écoles pour les présenter aux élèves. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, celles qui font le ménage, ce sont exclusivement des femmes. Et des femmes à la peau noire. Ça dit des choses. C'est pas une question de légalité. C'est une question que c'est comme ça qu'on conçoit. Donc quand vous avez... dans les écoles, le rapport que je suis en train de faire, quand dans les écoles, dans les collèges, les lycées, les maternelles et les primaires, ce sont fondamentalement des femmes qui font le ménage, eh bien, arrivé à l'âge adulte, c'est la norme. Au Japon, c'est les élèves qui font le ménage dans leur classe. Ça change la donne. Il n'y a qu'en fonction de l'école qu'on a, eh ben, on n'a pas la même société à la fin. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est pas une conclusion, mais cette violence, elle est là. Et l'enjeu qu'on a, je conclue là-dessus, pour de vrai, c'est que on a un vrai sujet sur l'école. C'est la question de l'autorité. On a un vrai conflit d'imaginaire. Il y a ceux qui veulent une autorité qui chéfature, qui écrase, qui humilie. Et il y a ceux qui pensent qu'il y a une autorité qui élève. Et nous sommes le camp de ceux qui veulent élever les enfants. On est le camp parce que c'est pas une question de campisme, c'est une histoire pédagogique, c'est une histoire éducative, c'est une histoire de l'école française qui considère qu'un adulte doit pouvoir permettre à un élève à travers l'accès aux connaissances, au savoir, quelle que soit la pédagogie, parce qu'il y a encore une liberté pédagogique, quoi qu'on en dise, même si elle est attaquée, de permettre à un enfant de pouvoir construire son propre chemin, sa propre liberté. Et c'est ça le sujet aujourd'hui qui est attaqué. Donc toutes les questions dont on parle, l'écologie, le genre, etc., c'est est-ce qu'on considère que l'école doit permettre aux enfants de s'émanciper, d'être libres, ou est-ce qu'on considère que les enfants doivent accepter une autorité tutelle de par le fait que c'est une personne adulte et qu'on ne remet pas la parole d'une adulte? Heureusement qu'on peut la remettre en question. Parce que si on n'avait pas remis en question celles et ceux qui pensent que la place d'une femme n'est pas à l'école, on ne serait pas dans cette configuration, y compris ce soir ici.
Bravo, merci beaucoup. On a donc fait le ménage aussi collectivement sur l'école, ses impacts sociaux, environnementaux. Les objets sont au cœur de cette question. Merci donc à Martine Dumas, à Marie Durubella, à Rodrigo Arenas de s'être déplacés jusqu'à Cluny. Et à vous tous et toutes d'être venus poser vos questions et partager vos réflexions. Donc bonne continuation de ces rencontres.
Merci.